Wow, Charlie, il est quelle heure là?
Oh putain, mais il est 20h.
Et on est quel jour?
Mercredi.
Et qu'est-ce qu'il y a le mercredi à 20h?
Sur RCN, la boîte de chocolat.
Allez.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et aujourd'hui, notre chocolat, bah justement, c'est Forrest Gump, et on en parle maintenant.
Dans 15 secondes, tout ce qui existe sera complètement atomisé.
Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent.
Nom d'une pute, t'es qui, toi?
Je suis une mythe en pull au vert.
C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue.
Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça.
Moi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con.
Oh, my generation.
On est mal barré.
Soyons enculés. Tu es immonde.
Cause this bad boy for life, for life.
Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le premier épisode qui est la boîte de chocolat, un podcast sur le cinéma. Alors, c'est le premier que vous allez entendre,
bravo.
Mais on a déjà enregistré toute une saison, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Ce soir, on va parler de Forrest Gump, parce qu'on était obligé de commencer finalement par Forrest Gump, dans le sens où c'est sûrement l'un des meilleurs films, et en plus, on fait quand même plusieurs fois référence dans le générique à Forrest Gump. M'accompagne ce soir, Charlie, bonsoir Charlie.
Eh bien, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir à tout le monde.
Et bonsoir Badis.
Bonjour.
Et bonsoir Thomas.
Et bonsoir moi-même, bien évidemment. Alors, ce soir, on va parler de Forrest Gump. C'est un film, une comédie dramatique de 1994, réalisé par Robert Zemeckis, d'une durée de 2h20, avec Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright, Sally Field et Michael T. Williamson. Alors, c'est un film qui a été noté par la presse, la note de 2,6. Et les spectateurs, eux, l'ont noté 4,6.
Il y a une bonne différence entre le retour public et le retour critique. Mais le critique, peut-être, l'ont pris de façon brutale, en fait, et n'ont pas aimé le côté naïf du film. Et à mon avis, c'est peut-être ça, les critiques. En fait.
Et quand on déballe le chocolat, eh bien, ça nous donne ça.
Je m'appelle Forrest, Forrest Gump.
Enfin, il est possible que mon fils soit un peu lent. Mais mon petit Forrest aura exactement les mêmes chances que les autres enfants. Je ne le laisserai pas dans une école spéciale où on lui apprendra à réchapper les pneus.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Maman, qu'est-ce que ça veut dire en vacances?
En vacances?
Où est allé papa?
En vacances, c'est quand on va quelque part et qu'on ne revient jamais.
Je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu la plus douce des voix qui soit au monde. C'était ma meilleure amie.
C'est pas du tout une bande annonce officielle.
Elle a été refaite, celle-là. Clairement, c'est pas la bonne musique.
C'est pas du tout la bonne musique.
Ouais.
On trouve même sur YouTube, ça va être.
Ouais, une originale de 94.
Une originale de 94 en français.
J'ai envie de pleurer.
Ça y est, les gars, je suis pris. Alors, bref, alors, on va faire le tour de la table. Qu'est-ce qu'on en a pensé rapidement, brièvement, autour de cette table, de ce film, Badis?
Alors, moi, c'est la première fois que je le voyais.
Ouais.
Donc, belle surprise. J'ai pleuré tout le long.
Ouais.
Donc voilà, je vais en parler, mais
pleurer mais pas subi, t'as kiffé.
Bah, pardon.
Excusez-moi. Vieux daron, toi.
Attends, je retire une lap dans ma pipe.
Déjà
après,
le mec qui te lâche une punchline.
Pleurer mais pas subi.
Ouais, c'est... Allez. Santé.
Réservez-moi un verre, s'il vous plaît.
Aubergiste. Non, moi je pense que voilà, c'est un film doudou en fait. C'est un film qui fait du bien en fait. C'est un bon film. Il y a des personnes qui pourraient dire chef-d'œuvre. J'ai du mal à dire chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un très très bon film et c'est un film qui fait du bien à l'âme. Ouais, c'est la partie poésie. Je pense qu'on va beaucoup se branler sur ce podcast. Ça va être incroyable, Charlie.
Bah pareil, ouais, film que j'ai vu quand j'étais tout petit. Et donc il y a grosse nostalgie quand même. Sur la forme, je peux pas critiquer grand chose. Sur le fond, bon, après c'est un film de boomer, quoi, tu vois. Ça s'adresse à une génération de Woodstock, la guerre du Vietnam, enfin tu vois toute la période bénie de l'Amérique, comme diraient les Républicains.
Oh, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je veux dire, oui, c'est à cette époque-là.
Ah, je l'ai pas vu comme
mais
ça.
Mais sans
en tout
être
cas.
Boomer,
bah, c'est un film un peu. C'est
autour
un film
de la table,
peu,
on est.
Il y a la nostalgie,
c'est pas notre époque,
nostalgie
c'est pas l'époque
d'une époque révolue qui était un peu.
Il y a la nostalgie, oui.
Ouais, mais c'est voir
comme un film de boomer. Ouais. Pas d'accord. Mais
c'est un film de boomer avec des boomers.
D'accord.
Ok, boomer.
Mais c'est un bon film.
D'accord. Ok. Oui, oui, bah moi je vais te poser la question, bien sûr,
oui,
merci.
Thomas. Et toi, Thomas, qu'en as-tu pensé?
Bah moi, honnêtement, je trouve que le film-là, c'est souvent on utilise masterclass, chef-d'œuvre, à
ouais,
tort.
Ça, voilà.
Je trouve que ce film, c'est une masterclass, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a rien qui est acheté dans ce film. Ce film, il est magnifique de A à Z, que ce soit la musique, les acteurs, la réalisation. Tout est magnifique. Je serais curieux d'entendre une personne qui dégomme ce film parce que franchement, il y a tous les ingrédients.
Mais
ça fonctionne encore. Le film date de 94. On est en 2023. Il a pas pris une ride. C'est magnifique. Alors, le résumé du film, c'est quoi? Ça va nous raconter l'histoire de Forrest Gump. Alors, Forrest Gump, c'est un personnage, sans doute l'un des meilleurs personnages de l'histoire du cinéma, nous raconter un petit
c'est
peu
pas faux après, hein. Non, pas ça, dans la surenchère
qui va non, nous raconter un petit peu l'histoire de sa vie, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'époque adulte, et puis on va se rendre compte qu'il a traversé diverses péripéties et surtout il est amoureux d'une fille qui s'appelle Jenny, et en fait tout va se concentrer là-dessus d'un point de vue le sien en fait à travers, à travers son regard qui est vraiment magnifique. Alors le film s'ouvre sur une plume qui descend du ciel avec légèreté pour se déposer tranquillement sur les Nike Cortez entachées de boue d'un personnage extraordinaire attendant un arrêt de bus, Forrest Gump, le tout sur une musique qui est magnifique, qui sera le thème du personnage. C'est non mais franchement
c'est magnifique
déjà à partir rien que ce plan, tu comprends que le film va être poétique. Et qu'il est magnifique.
Le seul truc, c'est que le plan, déjà, il y a un effet spécial. Enfin, un effet spécial, ça a déjà un peu vieilli, quoi, en fait.
Mec, ça date de 94.
Mais c'est le seul...
Tu faisais quoi, toi, en 94?
Non, mais c'est...
Tu faisais quoi? Tu faisais quoi?
C'est le seul truc qui montre qu'il y a une certaine patine sur le film. Mais le film, en soi, a pas vieilli. Ça qui est fort. Moi, mis à part ces trucs-là, en fait.
Je l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Je trouve pas du tout que ça a vieilli.
Attends, pour
moi, si c'était sorti aujourd'hui, genre, j'aurais rien dit.
Alors, qui me prend la suite?
Eh ben, donc, Forrest est sur un. Vous, on s'est déjà retrouvé en attendant un transport en commun, un mec chelou avec une canette de 8-6 qui commence à venir te parler alors que t'as absolument pas envie de lui parler, et ben c'est exactement la même chose sauf qu'il a une boîte de chocolat et il a une histoire à raconter aussi, mais qui s'avère être une histoire intéressante, puisqu'il commence à déblatérer sur sa vie en direction de la femme qui attend gentiment son bus et qui ne demande rien à personne.
Oui, c'est vrai que de prime abord, quand t'as un mec comme ça qui dit je sais pas si je vous ai déjà raconté, oh non,
ma maman c'était quand même un sacré personnage, et puis tu sais, l'autre essaye de merci.
Oui, bien sûr.
Mais elle a l'erreur à un moment de tourner l'œil vers lui, et donc du coup il y a eye contact, et là c'est mort. Après, le gars il est en roue libre, ouais. Et c'est 2h30 de film.
Par contre, le gars dès le début va lâcher l'une des répliques cultes du cinéma, à savoir celle qu'on a utilisée, que sa
maman disait
toujours.
La vie c'est comme une boîte de chocolat,
on ne sait jamais sur quelle on va tomber.
Ok. Bon, à côté de ça, Forrest, il continue de parler à cette brave dame. C'est un peu un forceur, hein, on va pas se mentir. Le mec embraye sur des paires de chaussures. Alors c'est ça qui est un petit peu chiant aussi, c'est-à-dire que non seulement le mec il parle. D'accord, tu le connais pas encore, Forrest. Hein. Non seulement il parle, et en plus il commence à dire oh bah elles sont sympas vos chaussures. Donc là il s'adresse directement à toi. Tu dis oh
je vais me faire découper.
Oui, en général c'est la phrase d'après. C'est est-ce que vous avez déjà lu la Bible? S'il te plaît non.
Oh voilà, moi j'attendais juste le bus. Putain, qu'est-ce qui se passe?
Et tu sens déjà dès les premières phrases que bon il est un peu simplet quand même.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est que Forrest a une petite particularité et pas des moindres, c'est qu'il
spécial.
Au niveau du QI, il est un tout petit peu en dessous.
Là, il est plus proche du cul que du I, quoi.
Oh non, pas ça.
Merci. Merci, ce sera tout pour moi.
Je pense qu'on peut partir là-dessus. En fait.
Alors, vas-y, on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe?
Du coup, c'est le premier flashback.
Ouais.
Et on part sur un flashback chaussure et sur un flashback chaussures, mais chaussures médiévales et chaussures de torture, en fait, quoi, en gros, quoi.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
En fait, on apprend donc quand il était jeune, il devait quoi avoir 5-7 ans, il est chez un médecin, mais chez un médecin de la bonne vieille Amérique où t'allais chez le médecin, le clopobec. Ça me fait bien marrer, c'est vraiment les trucs qui ont disparu.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a, une toux? Une bronchite,
ouais,
ça?
C'est clair, c'est ça. Cancer? Quoi? Mais jamais de la vie!
Ça, c'est.
C'est bon, je crache
fait,
un petit
ça
peu.
Ça fait mais... combien de temps que tu travailles dans la mine?
Non, ça m'a fait marrer parce que c'est les bons vieux clichés de la vieille Amérique. Et du coup, ils lui mettent en fait des sortes de chaussures orthopédiques pour redresser apparemment son dos.
Oui,
et
parce que
à la base, c'est son dos qui est.
Ses jambes
sa mère,
sont bonnes, mais ouais. son dos est aussi tordu qu'un esprit de politicien, selon le médecin.
C'est ça, ouais, c'est ça. Ou alors, comme sa mère dit, comme un point d'interrogation, ouais, c'est clair. Ça fait partie des points importants. En fait, sa mère est la reine des métaphores, en fait, où elle ne fait que ça, en fait. Très forte, très 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 gros personnage sur le film. Et du coup, il a ce que sa mère va appeler des chaussures magiques.
Oui.
Pour en fait, sa mère constamment va lui mettre en place des techniques de protection pour le préparer, parce que clairement lui il est dans un univers où il est innocent, il est naïf et il est purement gentil, en fait c'est ça en fait, hein. Et en face de lui, il a le monde, lui clairement c'est ça, c'est une nuance de blanc, et il est entouré du monde qui est une nuance de gris noir permanent,
c'est clair.
Et il y a sa mère qui est en bouclier permanent, et c'est ça qui est très intéressant sur le film.
Ah mais je le dis honnêtement, pour moi Forrest Gump c'est l'hymne à la vie. Non franchement il faut, ça devrait être, si je devais faire une secte, putain ce serait la secte Forrest, parce qu'en vrai il est extraordinaire ce personnage.
Bah, j'aime bien, mais le problème c'est que c'est trop innocent en fait, Forrest.
Ouais.
Moi j'aime bien.
En fait, on parle pas d'une personne handicapée, on parle d'une personne de base dans le film qui a un QI moins élevé que la moyenne.
Ouais.
On parle pas d'une personne qui est atteinte d'un syndrome bien ou sûr. Truc comme ça. Donc il sait ce qui est mauvais, il sait ce qui est bon à un moment donné dans le film.
Mais
je le critique un peu.
Il est fondamentalement bon.
Il est fondamentalement bon, mais il n'y a pas à être aussi bon que ça. Ça n'a un peu aucun. Pour moi, en tout cas, ça n'a aucun sens. Si
coupe
à la limite,
coupe-lui le micro. Je peux pas entendre ça.
Si on m'avait dit qu'il avait eu un syndrome, j'aurais dit ok, d'accord, il a une pathologie qui fait que.
J'ai le syndrome gentil.
Là, non, pas du tout. Il a juste un QI.
D'autant qu'il a des, enfin, il a des racines. D'après ce que tu comprends, il vient plus ou moins de la famille du fondateur du Ku Klux Klan.
C'est ce que j'ai aimé aussi parce que
incroyable.
Toutes les choses atroces qui peuvent se passer dans le monde, lorsque Forrest les raconte, c'est avec une bienveillance, une innocence. Qui est assez rigolote, ouais, justement, parle-en Charlie de son prénom.
Voilà, son prénom est un hommage au fondateur du Ku Klux Klan, parce que sa mère lui dit que visiblement.
Donc
des
une
fois,
daronne un peu raciste.
Voilà, elle le tourne de façon à lui dire ton prénom, c'est pour te rappeler que des fois on fait des choses dans la vie qui n'ont pas beaucoup de sens.
Super.
C'est une façon très gentille de dire que
parfois, ça a l'air une façon toujours orientée en fait du bon côté de la barrière. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est quelqu'un de gentil, il va pas chercher en fait à le déformer et à l'arranger à sa sauce.
Ouais, ouais.
C'est aussi
enfin,
ça qui est bien aussi.
Elle
après,
a quand même
là.
Une facilité d'un petit coup, revers de la main à passer sous silence des décennies et des siècles d'oppression et d'esclavage.
Elle met beaucoup de choses sous le tapis, quoi, en fait. Clairement, c'est ça.
Oui, surtout quand tu vois la taille de sa maison, tu te doutes bien que c'est pas elle qui a récolté la canne à sucre dans les plantations pour l'avoir. Donc,
non, c'est clair.
Alors justement, en parlant de la mère, il s'avère qu'on arrive à l'école. Et qu'est-ce qui se passe à l'école ? Parce que c'est là où on va avoir le
incroyable,
le premier point gênant du film, j'ai envie de dire en fait.
Donc madame. Arrive à l'école, donc elle arrête pas de bassiner son fils, comme quoi, enfin, je sais pas si ça se dit, comme quoi il est pas différent et qu'il est normal. Et donc son fils a un QI trop faible, donc l'école le refuse, mais madame est prête à tout pour que son fils rentre dans l'école.
Pour
donc,
qu'il ait les mêmes chances que tout le monde.
Exactement. Donc elle couche.
Elle fait un petit extra quoi, avec le proviseur. Quoi,
c'est vrai que, en fait, c'est ce que je trouve assez fort dans le film, c'est que d'un côté, t'as vraiment une innocence qui est Forrest, et quand il nous raconte des choses, etc. Et vraiment tout à côté de lui, mais la dureté de la vie. Parce que là, on est d'accord que sa mère, elle est en train de se faire prendre par le proviseur qui n'a aucun scrupule, etc. Ouais. Et là, t'as le petit Forrest qui est à côté, qui entend ni plus ni moins le proviseur en train de déglinguer sa mère. Quoi. Mm-hmm. Non, c'est ouf.
Mais c'est l'opposition permanente dans le film, en fait. Hein. En fait, t'as vraiment un côté... T'as le monde à côté de Forrest qui est manichéen.
Bah, celui qu'on vit, en fait.
Etc. Hein. Qui est normal. Et lui, franchement, son monde est parfait. Et c'est ça qui est toujours très marrant.
Il compose, je dirais. Et pas qu'il est parfait, je dirais qu'il compose.
Ah, franchement, moi, il lui arrive des trucs, théoriquement, qui sont horribles. On va voir dans le film. Mais il arrive chaque fois à voir, à quasiment pas le voir en fait. Et ça c'est fort en fait.
Petite ellipse temporelle pour nous montrer que par le plus grand des hasards, Forrest va rencontrer Elvis Presley. Et le film est parsemé.
C'est
le film est parsemé de trucs comme
constante,
ça. C'est génial.
En fait, c'est un peu l'histoire de l'Amérique, c'est-à-dire qu'il va systématiquement se retrouver lié plus ou moins à tous les grands événements
exactement.
Qui ont marqué l'histoire de l'Amérique. Donc que ce soit les scandales politiques, les guerres, Elvis Presley, il le croise et c'est lui qui lui apprend
le
cette fameuse danse. Voilà, c'est plus une fable qu'un
c'est
truc réaliste,
ça.
Il faut pas le prendre comme un film réel.
Ça m'a saoulé.
Sérieux ?
Ah, ah ouais, de ouf.
T'as pas aimé le côté conter légende en fait ?
Ah non, à un moment donné, il est pas dans tous les trucs, je veux dire.
Ah, c'est ce que j'ai trouvé. Ah,
t'as pas trouvé ça réaliste ?
C'est de trop. Je trouve que le film est incroyable, mais ça, c'est le truc de trop.
Ah, moi, c'est les clins d'œil qui m'ont fait marrer.
Le côté irréaliste, je peux comprendre que ça fait sortir du film. Mais en fait, encore une fois, comme il l'utilise avec un personnage tellement innocent, c'est ça qui te fait. Moi, en tout cas, qui m'a permis de rester attaché au film.
Mais je suis d'accord
avec toi. Si tu te bases juste sur juste en termes de réalisme, ce film est totalement irréaliste.
Parce que pour décrire un petit peu la scène, en fait, si vous voulez, dans la grande maison de la mère de Forrest, la mère de Forrest reçoit régulièrement des gens de passage,
c'est un Airbnb,
etc.
Quoi,
voilà, c'est ça,
hein.
Ouais. Le Airbnb de l'époque. Et en fait, il s'avère qu'il y a un mec qui se pointe avec une guitare. Et donc, Forrest, lui, il a une espèce d'attelle métallique au niveau des jambes, ce qui fait en sorte qu'il ait une démarche un petit peu particulière. Et puis, pendant que le mec est en train de gratter de la guitare dans la chambre, Forrest entend la guitare, rentre dans la chambre et essaye de danser, mais forcément, il est un petit peu handicapé avec ses jambes. Et du coup, le gars dit: ah, bon, de voir ton déhanché là, qui est plutôt pas mal, ce qui donnera le déhanché classique, enfin, légendaire d'Elvis. Et je trouve que tous les petits clins d'œil là, dans le film, c'est, je trouve ça vraiment canon.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le premier personnage maudit, en fait, qu'on voit dans le film, puisque derrière, en fait, donc, il lui donne un signature move, en fait. Enfin, c'est ce que tu comprends.
Ouais, ça va être vachement bilingue. Hein, si vous n'avez pas fait anglais élevé,
on mettra des sous-titres.
If you are fluent or not in English. Enfin bref, donc du coup,
comment dit le français, la signature move.
Il lui donne une danse signature. Okay.
D'accord.
Et juste après, en fait, c'est pour moi le premier maudit, parce qu'il le dit juste après. Et ce mec très sympa qui était le king, oui, va donc mourir.
Après, il parle d'un truc qui arrivera que 20 ans plus tard.
Ouais, mais c'est ça. Mais
c'est vrai qu'il croise beaucoup de personnes
qui vont mourir, notamment les Kennedy, etc.
Bah déjà, il a tendance à croiser des présidents, donc c'est... ou des candidats.
Et là, on arrive au premier jour d'école, et dès le début... très dur la scène-là. Et dès, ouais, le début, à savoir dans la montée du bus, donc c'est-à-dire que là, t'es même pas encore à l'école, hein, tu te fais déjà bolosser dans le bus. Donc
très dur, mais extrêmement réaliste, ouais, en fait. Sûr. C'est extrêmement réaliste sur le monde que t'es quand t'es un gosse. Hein.
Forrest,
c'est,
en fait,
c'est
il monte dans le bus et on sent que personne ne veut de lui à côté de lui. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de traverser, tout le monde dit non, la place est prise, ils mettent le cartable, etc.
Ouais.
Et là, il y a une petite voix qu'on va entendre.
La plus belle voix du monde.
Ouais, selon Forrest.
La plus douce voix.
Les larmes, les poils,
première fois que tu pleures, hein, dans le film.
Franchement, c'est beau. Là, il y a une petite nana qui lui dit: écoute, tu peux venir t'asseoir à côté de moi, ouais, si tu veux. Et là, c'est qui cette meuf?
C'est un deuxième personnage très
important.
C'est Génie. C'est Génie.
Oui,
c'est Génie.
C'est
la Génie.
C'est la Génie.
C'est la Génie.
C'est la Jen.
Il faut quand même noter
c'est
que...
la Jen, ma gueule. Ouais.
C'est un film qui se passe donc dans le... enfin, cette partie-là se passe dans l'Alabama dans les années 50. Donc le fin fond de la campagne, le truc le plus arriéré et possible.
Autant dire que t'es noir là-bas, c'est pas ouf.
Bah voilà déjà, et il y a une chance, qu'ils soient tous cousins quand même. Tu vois, plus ou moins.
Pas loin. C'est tous des rednecks, théoriquement, c'est tous des rednecks.
Bah carrément, donc le fait qu'il rencontre l'amour de sa vie dans le bus de son village,
c'est sa cousine.
Dans l'Alabama aussi, mais 100% c'est sa cousine. Je tiens juste à dire, pour la suite du film, parce que ça va avoir une importance, mais voilà, c'est sans doute sa cousine. Ils ont un lien de parenté, c'est certain.
Génie et Forrest.
Je suis sûr qu'ils ont un lien de parenté.
Ah ouais,
c'est sûr. Mec, c'est comme si un mec te dit: oh, j'ai rencontré l'amour, alors qu'il habite dans mon village, alors qu'il habite dans un truc où il y a personne à 200 km à la ronde.
C'est
cousin.
S'ils refont les arbres généalogiques, c'est sûr que leurs ancêtres ont tous participé à une guerre de sécession, etc., et qu'ils ont joué à touche pipi à un moment donné.
Moi, je sais qu'en tout cas, à ce moment-là, déjà dans le bus, je commençais déjà à être fébrile.
Mais il rencontre ouais, l'amour de sa vie comme ça, le premier jour d'école dans le bus.
C'est l'amour de sa vie et sa meilleure amie, c'est ça qui est vachement bien en fait, d'une certaine manière.
C'est la femme de sa vie, ouais, après sa mère.
Ouais, souvent les garçons, ouais, ça nous arrive ça quand même. Non, attends, t'es ma meilleure amie, bien sûr, je t'aime support. Souvent c'est un peu ça.
Tu veux parler de la friendzone, Thomas.
Donc là, on a des petites ellipses, voilà, ils sont ensemble, etc. On les voit gambader en tant qu'enfant, etc. Et là, on va avoir sûrement affaire à l'une des répliques les plus cultes du cinéma.
Exactement.
Alors qu'est-ce qui se passe? Qui me l'apprend?
Et bah en fait, Jenny découvre le super pouvoir très rapide en fait de Forrest, en fait,
qui résiste vachement bien à la lapidation.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai.
Et qu'il a une capacité à encaisser les pierres dans la gueule. Je trouve ça incroyable.
Comme si de rien n'était.
Ouais,
la violence de ce plan. Attends, non, mais on va parler de ce plan. Ils sont tranquilles en train de discuter, Forrest et Jenny, et
il y a trois
Forrest
gosses.
Va prendre des pavés dans la gueule, quoi.
Mais encore une fois, c'est lapidation. Je suis désolé, à un moment donné, il a rien, le gosse. Genre, tombe sur le sol, je sais pas, fait quelque chose, réagit.
Non, mais c'est insolide.
T'as pas de cœur, toi.
C'est insolide.
Ah si, justement.
Excuse-moi,
mais...
attends, dans ton film, c'était des pierres qui lançaient ou ton cœur? Parce que franchement, c'est aussi dur.
Je te rappelle, non, en plus, que le fait que le gosse ne bouge pas et que tombe pas sur le sol, pour moi, c'est un peu n'importe quoi.
Non, parce que sa mère lui a donné des armes. Hein. Sa mère lui a dit: n'est stupide que la stupidité.
Oui,
non,
mais à un moment donné.
Là, il voit trois gosses stupides en train de lui balancer des cailloux. C'est rien pour lui. C'est
bon,
des
bref,
plumes.
Il y a trois gros cassos qui lui lancent des cailloux. Et après, Thomas?
Bah du coup, Jenny lui balance « Cours, Forrest, cours !» Et là, pouvoir magique du cinéma et des effets spéciaux aussi. Du coup, il se met à courir, sachant qu'il a encore à ce moment-là
ces
espèces de trucs. Et là, elles finissent par se disloquer.
Putain,
et là,
c'est beau.
Il passe en mode flash, en fait.
Ah bah, le mec, c'est Usain Bolt.
Incroyable.
C'est-à-dire qu'il y a trois gosses à vélo, donc ils le poursuivent, il arrive à pas rattraper.
Ouais, mais carrément.
Et un tout petit peu plus tard, c'est quand même des mecs en voiture qu'il arrive à courser quand même. Donc ça, j'ai trouvé ça encore,
ouais,
encore plus
mais c'est beau. Bah oui. Alors, on en apprend un peu plus sur le... Alors, c'est ça que j'ai trouvé vraiment... C'est l'exemple même d'un contexte que je trouve magnifique avec Forrest. C'est qu'on en apprend un peu plus sur le background, vu que Thomas, maintenant, parle anglais. Tout à fait. Sur le background de Jenny.
Sur son origin story,
c'est ça,
dire.
Sur son origin story.
Excuse me, about Jenny.
Parce que t'as Forrest qui commence à dire, ouais, en fait, le père de Jenny, c'était une sorte de fermier, mais il était très affectueux, vu qu'il faisait que d'embrasser et de toucher les filles. Et tu dis, ah ouais, en fait, c'est un mec alcoolique. Pédophile, ouais. En fait, c'est ça. Mais à travers les yeux de Forrest, c'est beau, franchement, c'est beau.
Oh, et là, le moment, quand
c'est, pas, c'est pas c'est beau, mais
je dirais pas que c'est beau.
Mais quand je dis c'est beau, c'est en fait l'innocence du
Du truc, en fait.
Mais même de génie, c'est magnifique. Le moment où, juste après, le moment où elle lui demande de prier pour qu'elle devienne un oiseau pour s'envoler, et ça, c'est un des moments les plus magnifiques du film.
Ouais, parce que tu sens déjà les premières tendances suicidaires de Jenny, en fait.
Mais tout est incroyable, de toute façon. L'opposé, en fait, d'entrée, il arrive hyper bien à construire le personnage. T'as encore une fois Forrest qui va être le gentil naïf et où tout va bien se passer pour lui. Et Jenny qui va manger de la merde, mais qui va manger en fait d'une certaine manière la plus mauvaise.
Elle va chier
de la
du
société.
Sang, j'ai envie de dire.
Elle va chier
dis
du
les
sang.
Termes.
C'est clair, c'est ça. Elle va en chier. Elle va donc être d'une certaine manière le reflet de la société, mais le mauvais reflet de la société. Et le bon côté, c'est uniquement ce qui arrive à Forrest. Et c'est cet assemblage en fait du début du film qui fait qu'en fait c'est super bien.
Elle part bien, enfin elle a déboulé quoi dans la vie.
Ah, oui dur, oui, bah on y reviendra juste après.
Parce qu'au final, elle échappe à un père incestueux pour se retrouver en caravane avec sa grand-mère. Donc tu vois, c'est pas, enfin l'évolution est pas non plus.
Avec un chien agressif.
Plus petit logis, mais moins de frottis.
Exactement. C'est l'avantage.
Putain, l'horrible personne.
Tu pourrais tellement être publicitaire, mais publicitaire horrible en fait. En gros,
alors, on retrouve Jenny et Forrest à l'âge adulte, qui fait d'ailleurs un clin d'œil lorsqu'ils étaient enfants, parce qu'ils sont dans le même chemin. Et là, en fait, justement, comme tu disais tout à l'heure, Forrest va de nouveau se faire poursuivre par, on imagine, les trois mêmes cassos,
oui, trois mêmes
à l'âge adulte. Sauf que là, ils sont
devenus des bons rednecks. Là.
À l'âge adulte, plus à la fin du lycée, on va dire.
Oui.
Et ben, c'est pareil, il commence à l'insulter. Et donc là, Jenny lui sort son magnifique cours Forrest. Et le mec tape un sprint de l'espace. Et puis, arrive à les larguer.
Oui.
Et en leur échappant, il s'avère qu'il se retrouve sur un terrain de foot US qui traverse donc en courant, et les coachs qui sont sur le côté se rendent compte, putain, mais c'est qui ce type complètement con
qui est en train de coiffer tout le monde,
trois fois
plus sachant
qu'on
est d'accord qu'il est dans dans sa ville en Alabama, à Greenbow, et comme par hasard il y a le coach universitaire de l'université d'Alabama qui est là en fait, quoi.
Qui est un des plus gros programmes universitaires de foot.
Il faut le savoir, c'est l'un des plus gros, totalement. Il y a deux universités en Alabama. Généralement, quand tu fais Alabama l'un ou l'autre, tu vas en NFL. Hein.
D'accord.
Donc,
le gars, coup de chance. Mais toujours est-il que ses capacités physiques lui permettent d'obtenir une bourse pour aller à l'université en jouant au foot US.
Exactement. Et là, j'avais noté images d'archives avec Forrest. Donc, c'est là où on commence déjà à avoir des premières images d'archives, je crois.
C'est vrai.
Oui, non, parce qu'il dit, tout au long de sa carrière universitaire, du coup, il démonte tout le monde et il se retrouve dans la sélection américaine des meilleurs joueurs universitaires. Et il a la chance de rencontrer pour la première fois le président des États-Unis.
C'est le premier.
Et le premier.
Le
Kennedy.
Premier, ce qui est marrant,
Kennedy,
c'est ça.
C'est le premier. Du coup, pendant ces périodes universitaires, il est confronté aussi un peu au... toujours l'histoire des États-Unis et donc la ségrégation. Et donc, il se retrouve dans la même université que la première fois où des étudiants noirs ont été autorisés à assister à des cours dans un État du Sud où la ségrégation avait encore cours et que les Noirs n'avaient pas le droit de partager les mêmes choses que les Blancs.
Et moment fort, parce que du coup, je crois que c'était l'armée qui était venue pour imposer...
La garde républicaine.
Qui était venue pour imposer à l'université d'ouvrir elle-même parce que le président de l'université ne voulait pas le faire. Et du coup, ce président de l'université...
Il parlait de grand remplacement ou un truc dans ce style. Je sais plus exactement.
Je sais plus quoi.
Et pareil, on a le premier truc très important parce que du coup, ce président de l'université plus tard se présentera à l'élection présidentielle et sera le premier du...
One eternity later.
Quelqu'un se fait tirer dessus, en fait.
Ouais, c'est vrai. Alors là, on arrive à un flashback où on retrouve Forrest qui attend Jenny à son université. Il est assis sur un banc. Il veut lui amener une boîte de chocolat. Il attend sous la pluie. Ouais. Et là, en fait, une voiture est en train d'arriver sur le parking et il s'avère que c'est Jenny. À l'intérieur, il y a aussi un mec. Et le mec tente de vouloir coucher avec Jenny.
C'est ça.
Ce qui a tendance à mettre un petit peu Forrest un petit peu hors de lui.
C'est même pas ça, c'est qu'en fait, le mec est un peu maladroit parce que du coup, je pense qu'il est un peu trop brusque. Et
tu t'es trompé de trou, hein.
Salut les mots.
Je sais pas comme ça que j'aurais vu. Okay. Mais en gros, il tape, il pousse un peu violemment Jenny qui se tape la tête contre la vitre. Ouais. Et du coup, il entend Jenny dire putain, aïe, ça fait mal en fait. Et ça le fait réagir. Et du coup, il fait une sortie du mec direct, qui forcément doit être un peu refroidi. Mais j'ai trouvé que le mec, du coup, était hyper faible psychologiquement. Parce que du coup, bon, il peut comprendre que le mec est un peu fragile mentalement. Donc il pourrait le comprendre, ça en fait.
On peut dire que Forrest a dosé un mec.
Ouais, c'est ça, c'est juste ça. Et du coup, il le dose. Et son première réflexion, c'est de s'en prendre direct à Jennifer. Non, c'est pas bien ce que t'as fait. Donc en gros, le mec s'est fait juste bolosser. Et son premier réflexe, c'est juste de s'en prendre à la fille, comme d'habitude.
C'est
en gros,
homme toxique de l'époque, quoi.
Après ça, enfin. Voilà, c'est le film est un peu moralisateur dans ce sens, mais ça commence à être le premier de la longue série des bons choix de Jenny qu'on pourra détailler tout au long du film, où effectivement elle choisit toujours des gars assez
Là, Jenny, elle prend Forrest, elle l'amène dans sa chambre et on va apprendre deux choses le soir-là. La première, c'est que Jenny, elle a qu'une envie, c'est être une star. Et la deuxième, c'est que tu peux être précoce et être touchant.
Tu peux être aussi rapide sur un terrain de foot que dans un plumard.
C'est ça. Parce qu'en fait, Jenny commence à se déshabiller. Elle montre un sein à Forrest et elle fait en sorte que Forrest lui touche son sein.
Petite seconde base.
Et là, voilà. Et là, Forrest, pour lui, c'est son première véritable expérience. Il a un orgasme. C'est un peu un côté précoce. Et là, du coup, il s'excuse. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la chambre, ils sont deux. Et là, t'as la coloc qui, elle, fait mine de dormir, mais qui entend tout. Et là, t'as Forrest qui dit oh, je suis désolé, j'ai sali le peignoir de ta coloc. Et là, la meuf, elle dit non, mais t'inquiète, je peux pas la blairer. Et là, t'as la coloc qui dit waouh, bah nickel, en fait. C'est clair.
La prochaine fois, tu viendras chier dans mon lit, en fait, apparemment, parce que ça te dérange pas.
Alors, ça m'a fait marrer parce que juste après, on est sur un match de foot et on se rend compte que le public s'est complètement adapté à Forrest. Pourquoi? Ouais.
Super. Et bah parce qu'il est super bon et que du coup il fait gagner l'équipe.
Ouais, parce qu'il le guide à la voix en fait. Ils lui disent cours Forrest au moment où il doit courir.
Voilà, et au surtout, moment où il doit se stopper.
Voilà, ou surtout ils lui disent de s'arrêter au moment où il doit s'arrêter parce que sinon il s'arrête pas.
C'est clair. Bah en fait, c'est le début en fait d'une des bases importantes de Forrest. Forrest, c'est le bon robot en fait.
Moi bon, je trouve ça réducteur.
Ah bah mec,
c'est pas réducteur, mais
il va se retrouver assez souvent quand même dans des environnements où le quotient intellectuel n'est pas primordial pour arriver à s'en sortir.
Tout en étant exploité à 100% de son potentiel, donc c'est ça qui est incroyable en fait d'une certaine manière.
Et bah justement en parlant de ça, donc là il y a une petite ellipse, on voit Forrest qui rencontre Kennedy, mais surtout Forrest est diplômé de l'université.
Sa maman est fière.
Et là, juste à la fin,
sans avoir couché avec le président d'université, c'est quand même fort, quand même. Hein,
oui. J'ai cru que tu parlais de Forrest. J'ai dit, oh là là, oh ça devient glauque. Oh non,
j'ai carrément pas vu.
Parce qu'on est d'accord que même Forrest, il explique, c'est grâce au foot US.
Oui, qu'il y allait, qu'il a réussi à aller. Mais du coup, tu peux aller à l'université et pas être diplômé. Il arrive à être diplômé au bout de 5 ans, donc il est vraiment allé au bout du cursus. Et du coup, il arrive à être diplômé. Donc,
oui, c'est vrai fort. Que...
Ouais. Donc là, Forrest, il est diplômé de l'université. Et il va se faire recruter dès la remise du diplôme par l'armée.
Bah, en gros, qu'il le prend à la sortie même où il a son diplôme. Et c'est un petit peu. En fait, c'est ça qui est génial. En fait, ça t'a expliqué comme quoi c'est aléatoire. Mais en fait, t'allais te demander de toute façon, après, avec son diplôme, qui l'aurait embauché en fait d'une certaine manière, Forrest, en fait. Parce qu'il a quoi comme qualité en fait de base?
Bah, il aurait pu faire du foot US. Hein.
Bah oui.
Peut-être.
Peut-être, c'est pas faux.
Puis vu la
pas
chance faux. Qu'il a, il aurait pu faire ce qu'il veut en fait.
Est-ce que le film aurait été aussi intéressant si c'était en NFL? Je sais pas. Après à voir, ouais, c'est pas faux. Ouais.
T'imagines la série de films, c'est Forrest Gump 8, NFL Fever.
Alors
ce que j'ai trouvé sympa, c'est que il est donc débauché par l'armée. Et là, on va avoir un petit clin d'œil au début du film, vu qu'il remonte dans le bus pour aller à l'armée. Et là, c'est comme au tout début, quand il était gamin, personne ne veut de lui à ses côtés. Et là, il y a une personne qui veut dire, bah, t'as qu'à venir à côté.
Le deuxième grand amour de sa vie.
Exactement. Et c'est qui me le prend?
B2O.
B2O PA, ma gueule.
Bah, c'est un mec, un black, avec une très grosse lèvre, qui est fan de crevettes.
Benjamin Buffer Blue.
Benjamin Buffer Blue. Booba, donc ils se lient d'amitié très vite parce qu'ils ont l'air aussi simples l'un que l'autre.
Ouais, en fait, voilà, t'as Forrest Gump et la version de lui en Renoir, c'est Booba.
Tu sens qu'il recrute pas non plus le haut du panier dans l'armée.
Non.
Et ils commencent un peu leur entraînement et il s'avère que Forrest est. Enfin, voilà, c'est un génie de l'armée en fait.
Et ça nous donne ça.
Il s'intègre totalement dans l'univers.
Gump!
Quel est ton seul et unique but dans cette armée?
Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur.
Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! T'es un putain de merde de deuxième classe, doué, Gump! Écoutez-moi, les mecs!
Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. C'est pas très difficile. Il faut juste faire son lit au carré et se tenir bien droit. Et répondre à toutes les questions par « Oui, sergent instructeur ».
Est-ce que c'est clair ?
Oui, sergent instructeur !
On est mercredi, il n'y a pas école, mais surtout sur RCN à 20h, il y a la boîte de chocolat.
Et en effet, pour Forrest, c'est assez simple l'armée, dans le sens où il commence même à péter des records de démontage et de remontage d'armes. Tout est bien pour lui.
Bah, c'est le soldat parfait, en fait. C'est comme ça, en fait, que l'armée te veut, en fait, quand t'es à l'armée, en fait. Tu débranches ton cerveau et t'écoutes une seule personne, en fait. C'est pour ça que ce film est hyper bien là-dessus. Forrest, quoi qu'il arrive, est le soldat parfait.
Si on lui dit... Mets-toi là et attends pendant 6 heures, le mec se met là et attend pendant 6 heures.
D'ailleurs, c'est vrai parce qu'on verra, là je viens d'y penser, on verra qu'après finalement, il est robot, mais jusqu'à une certaine limite, parce que quand il va vouloir rechercher, on en parlera après, mais quand il va vouloir rechercher Booba.
Oui, parce que là, il a de l'empathie. Parce que là, il sait qu'il se passe un drame.
Oui, mais tout le long, il n'a pas d'empathie, mais après, il a d'empathie, ça n'a plus aucun sens.
C'est ça.
Alors, c'est à l'armée que Forrest découvre que Jenny fait des photos pour Playboy.
On gagne sa croûte comme on peut, Thomas. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cuillère en argent dans la bouche.
Surtout, comme elle expliquait, elle voulait être star avec sa guitare. Du coup, elle sera star avec sa guitare, mais surtout à poil, en fait.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
J'ai envie de dire, quand ton enfance, tu t'es fait tripoter par ton père, bon, faut pas non plus s'attendre.
Malheureusement, ça va souvent décliner là-dedans. Ouais.
C'est quand même lourd comme passif.
Il va se rendre dans son cabaret et il va voir que des gens se moquent d'elle, encore une fois. Et du coup, il va la défendre pour la deuxième fois. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on voit qu'il la défend. Et du coup, il va frapper les mecs et il va la prendre, il va la porter et il va l'emmener loin d'ici.
Oui, parce que se moquer d'elle, c'est genre, ah, vas-y, retire ta guitare, elle monte tout tes
seins. Elle fait de la musique, mais naturiste.
C'est ça. Ouais, en fait, elle est dans un club de striptease. Et du coup, elle est naturiste et il y a juste les gros beaufs qui sont là et qui veulent la voir à poil. Quoi, en fait.
Tu veux pas gratter mon manche plutôt que la guitare? Ouais, c'est des trucs comme ça.
Un peu ça. Je vais pas les défendre, mais à la base, ils sont dans un club de striptease.
Ah oui, donc toi, voilà. La poésie, tout ça, c'est mort.
Écoute, quand on allait dans des clubs de striptease, on va pas voir ce genre de choses.
J'aime les beaufs.
Et là, Forrest, il va faire une révélation à Jenny et pas des moindres. Laquelle?
Il est amoureux.
Déjà ça.
Et il va au Vietnam.
Exactement.
Et généralement, le Vietnam, ça se passe toujours bien. Donc ça annonce du bon.
On n'a pas parlé qu'elle voulait suicider aussi.
Ah oui, vas-y.
Oui, bah, incroyable. Elle commence,
Elle commence à vouloir se suicider parce que sa vie, c'est pas ouf.
Oui.
Donc elle se met sur le pont et là, elle veut sauter. Et puis.
Ouais.
Finalement, elle le fait pas.
Depuis gamine, il y a quand même ce côté je vais me foutre en l'air. Ouais.
Bah, elle est toujours border en fait. C'est et ça, de toute façon, que tu le comprends. Elle est toujours en fait sur un fil et elle est toujours à deux doigts. Ça t'est montré du début à la fin. Au moins, c'est bien construit au niveau du personnage.
Elle lui dit quand même tout. Enfin, quasiment tout au long du film, écoute, je suis pas une personne pour toi, il faut pas que tu t'attaches à moi comme ça, parce que je suis un peu
Que je risque de me suicider demain,
un peu
demain,
pas
en
équilibré
fait,
quoi.
Et bah comme meuf, moi je trouve dans le film elle était hyper terre à terre.
Ah ouais,
ouais,
tu trouves?
Ouais.
Bah elle utilise beaucoup des produits de la nature. Ouais.
Ouais.
Arrivant, elle est passée au-delà de la nature.
Des produits très naturels.
Arrivé au Vietnam, Forrest va rencontrer un nouveau personnage, à savoir le lieutenant Dan. Quel personnage? Moi franchement le lieutenant
l'un
Dan,
des meilleurs. Il fait partie des trois meilleurs persos en fait, ouais, je pense. Ouais. Ouais.
Bah en fait il y en a trois, il y a Forrest, Booba et lieutenant Dan.
C'est clair. Ouais,
hein, montre bien.
Là c'est la Vietnam, c'est la partie compilation du rock américain des années 60.
Mais mec, la bande son de ce film, elle est folle.
Ah, vache. Ouais, ils en mettent à toutes les sauces quand même.
Ah ouais, grave.
Bah tout est fou en fait dans ce film. Et globalement, c'est ça. Du coup, il est au Vietnam avec son pote Booba.
Tchou, tchou, tchou.
Qui lui a quand même bien monté la tête et qui lui a expliqué tout ce qu'on pouvait faire
sur
les crevettes. Et qui lui a expliqué que plus tard, sans doute, il serait crevetier à deux et ça lui va bien. Crevetier.
Ils
vont crafter. Et ça lui va bien. Et du coup, il arrive.
C'est pareil, je fais une petite parenthèse. Tout le long du Vietnam, c'est la voix off de Forrest qui va raconter un petit peu comment se passait le Vietnam, mais dans sa vision à lui. Donc, toujours chargé de poésie.
C'est vrai.
T'avais un truc aussi à dire là-dessus?
Non.
Ok, bon.
Ce que j'ai à dire à propos de ça.
Non, c'est vrai, t'as raison, c'est hyper poétique. Tout le long du Vietnam, c'est beau. Hein.
À aucun moment, t'as l'atrocité du truc, tu vois, c'est beau.
Bah surtout que pour l'instant, le début de son service se passe hyper bien, en fait, comme il te l'explique, en fait. Ils font des trucs de routine. Il y a des trous, puisque c'était là où les Vietcong faisaient leur barricade et se planquaient. Ils vont les fouiller, ils trouvent rien. et il y a juste un truc négatif qui commence à arriver, c'est qu'il pleut. Ouais. En fait, c'est ça que tu comprends en fait, quand en gros quoi. Et même la pluie, même la pluie, ça te fait marrer comme
on explique. On n'a pas compris pourquoi un jour il y a pluie, puis pendant 3 mois il pleuvait.
Découverte de la mousson. Et là, ce qui est très fort, ouais, c'est son analyse du truc, qui est toujours très très naïf, mais toujours très belle. Hein.
Bah ouais, c'est ça.
Il pleut du haut, et puis à un moment donné une pluie de côté, et puis à un moment donné même une pluie qui s'en veut dire du dessous. Ouais. Ça, c'est très très marrant après derrière. Hein.
Et lors d'une soirée de garde, Booba va proposer à Forrest de s'associer avec lui.
Magnifique.
Bah, vas-y.
Ah bah magnifique. Il lui propose de s'associer avec lui pour justement faire son truc de crevettier là. Faire son commerce, et du coup il lui dit on sera les deux chefs.
Parce que nous, c'est vrai qu'en tant que 50, spectateur, 50. En tant que spectateur, pardon, ça fait quand même un quart d'heure, 20 minutes qu'on voit Booba à chaque fois qu'il parle à Forrest. C'est les crevettes. Comment faire les crevettes, ma mère gère les crevettes, ma grand-mère gérait les crevettes, etc., etc. Et puis là il lui dit écoute, j'ai bien réfléchi. Boum.
Il a déjà tout calculé.
Ouais, c'est ça.
50-50.
Et ça aura son importance pour la suite. Direction quelques jours plus tard, où toute l'escouade de Forrest va être prise d'assaut.
Eh ben écoute, à un moment, il s'arrête de pleuvoir.
Ouais.
Et il s'avère que quand la pluie arrête, les balles pleuvent, par contre. Et bien souvent dans le crâne des G.I. donc ils passaient par là. Et là, c'est grosse escarmouche. Enfin, ça tire dans tous les sens. La moitié de son peloton, ouais, bah voilà, est décimé. Et donc, on lui dit de se barrer. Et donc, il se barre. Et donc, il court plus vite que tout le monde. Et il se retrouve tout seul au final. Et à un moment, il se dit mais du coup, maintenant, je suis tout seul. Où sont
Il respecte l'ordre du lieutenant Dan, mais il respecte également ce que lui avait dit Génie. En fait, quand tu arriveras en danger, également, ne respecte qu'une seule truc. Forrest court en fait. Ouais, il respecte les deux trucs.
Oh, Génie.
La gêne.
Non.
La gêne.
Et en effet, une fois qu'il est en sécurité, il se dit mais merde, mais où est Booba en fait?
Où est B2O?
Et qu'est-ce qui se passe?
Il a encore tellement d'albums à sortir.
Bah du coup, comme c'est un gars gentil et naïf, il va rechercher en fait.
Donc là, il retourne dans la jungle qui se fait bombarder, etc. Et pour dans l'idée d'aller récupérer Booba. Et en fait, à chaque fois, il croise un mec de son escouade et du coup, il le sauve. Et tu vois le mec qui fait des allers-retours, etc.
Il en sauve 3. Et ensuite après,
on t'en montre 3, mais il en sauve plus. Hein.
Ah, je sais pas.
Ah,
ça
j'en avais noté 3 aussi.
Moi, il y en a été des 3 avant d'aller sauver le lieutenant Dan.
Oui, donc 4.
Ça fait 4.
Et Booba
après derrière. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'était dans l'ordre. C'était 3.
C'est quoi le problème avec. Une fois qu'il a ramené les 3 et qu'il va chercher le lieutenant Dan, c'est quoi le problème, Badis?
Bah, c'est que le lieutenant Dan ne veut pas être sauvé.
Ouais.
Et c'est qu'en le prenant et en retournant là où ils sont safe, il se prend une balle dans les fesses.
Un petit truc
quelque
moustique.
Chose qui m'a piqué.
Et ça, je trouve ça un peu nul parce que, genre, il se prend une balle et puis tranquille. On n'en parle pas plus que ça.
Après, avec l'adrénaline, il peut se passer des trucs après derrière, hein, tu sais.
Ouais. Ouais, mais du coup, après, on apprendra après qu'il a perdu ses jambes, le lieutenant. Et du coup, il revient, il va chercher Booba, et là, Booba va mourir. Ouais. Et ça, c'est ultra triste.
Ouais, parce qu'on t'explique à un moment que le lieutenant Dan vient d'une longue famille militaire,
ouais.
Et que tous ses ancêtres sont morts dans tous les grands conflits américains. Donc voilà. La guerre d'indépendance, la guerre de sécession, la première et deuxième guerre mondiale, et là le Vietnam. Et malheureusement, il est sauvé par un abruti d'Alabama.
Ça.
Et du coup, il mourra pas au Vietnam.
Non. Qui attendant d'ailleurs un mal de vie.
À la différence de Booba, par contre, qui lui va mourir.
Ouais. C'est ça. Ouais, comme disait Badi, ça c'est touchant parce que Forrest le prend dans ses bras et puis Booba meurt quoi.
Et tout est incroyable dans cette scène. Hein. Tout ce qu'il dit en fait, parce que comme il le dit, si j'avais su que c'était la dernière fois que je discutais avec Naïf, avec Booba, j'aurais pas dit quelque chose aussi stupide en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que le personnage en fait est fidèle à lui-même du début à la fin quoi. En fait, il a une conversation tout ce qui est le plus classique et il lui dit qu'est-ce qui s'est passé. Tu t'es fait tirer dessus.
C'est tellement c'est ça, le sang qui tombe alors. Parce que je me disais merde.
Et le truc qui m'a déchiré le cœur, c'est quand Booba le regarde et lui dit je veux rentrer chez moi.
Ah, ouais.
Alors que tu sais qu'il va mourir.
C'est un hommage au générique de la boîte de chocolat.
Ouais. Je veux rentrer chez moi.
Un
extrait que vous entendrez à la fin. Et oui, il faut aller jusqu'au bout. Direction l'hôpital, car Forrest a pris une balle dans le cul et il se retrouve à côté du lieutenant Dan qui, lui, s'est fait du coup amputer des deux jambes.
Ouais. Ouais.
Disons qu'on comprend pourquoi est-ce que le lieutenant Dan voulait en fait ne pas être sauvé en fait, d'une certaine manière. En fait,
Oui, dès lors que tu dis merde, j'arrive plus à bouger les orteils, à mon avis, le prochain match de foot, ils font pas appel à moi.
Non. Disons que ça part mal quoi. Bah du coup il s'est fait amputer des deux jambes quoi. C'est ça qui est et là encore une fois ce qui est incroyable c'est la performance de l'acteur parce qu'il a réussi à hyper bien le jouer constamment en fait pendant le film quoi.
Un truc tout con pareil en termes d'effets spéciaux,
ça c'est hyper bien fait aussi.
Ben, voilà, on est en 94.
Ah non, ça tient la route hein.
Ouais mmh. on est en 94, le mec visuellement tu vois qu'il n'a plus de jambes, c'est des fixes tu vois, mais en 94
ah non
pas...
c'est pas mal hein.
Ouais c'était
très grosse performance
ça de... c'est le coup dur pour le lieutenant Dan, mais Forrest il va avoir un gros coup dur, c'est que on a oublié de le préciser, mais durant toute sa période du Vietnam en fait Forrest il écrivait des lettres à Jenny pour lui dire qu'il pensait tout le temps à elle, qu'il l'aimait, etc. Et en fait à l'hôpital on se rend compte que toutes les lettres qu'il a envoyées à Jenny lui sont retournées
parce qu'elle est devenue une hippie.
C'est ça.
Bah, elle, les hippies ça ouvre pas le courrier.
Ah non, les hippies ça vit dans la rue et ça...
ça a plus d'adresse.
Voilà.
Il y a des mecs qui arrivent qui te disent que t'es à Los Angeles. Eh hey, on va à San Francisco. Ok vas-y je te suis. Banco.
Ouais, du jour au lendemain t'as pas compris pourquoi mais c'est devenu une hippie.
Ouais.
Bah disons que en fait de toute façon.
Ça va avec le côté artiste.
C'est ça. Jenny c'est le personnage qui se cherche et qui est de façon névrosée du début à la fin, donc forcément elle va essayer d'aller vers le truc qui lui paraît le mieux au moment.
Il y avait deux jeunesses américaines, il y avait celle qui faisait de la musique et celle qu'on envoyait au Vietnam. Mm. Et c'est un peu les deux.
Celle qui se droguait.
Oh, t'inquiète, au Vietnam, il tapait des trucs aussi. Hein.
Alors là, coup dur pour Forrest, mais fort heureusement, Forrest à l'hôpital, il va découvrir quelque chose. Et c'est quoi ?
Le ping-pong.
Alors qu'est-ce qui se passe, Charlie ?
Eh bien, il s'avère que pour un débile, il est doué dans beaucoup de choses au final.
Ah ouais, non, mais c'est
donc,
un robot.
Dès qu'on lui donne une directive simple, en fait, il l'applique vraiment à la lettre.
Et il masterise
le ping-pong en un temps de rémission, donc je sais pas combien de temps. C'est
sur une seule règle en fait, il la maîtrise. Hein.
Voilà, ne jamais quitter la balle des yeux. Et il s'avère qu'après, il va faire carrière dans le tennis de table.
C'est ça. Alors, entre-temps, on le voit un petit peu masterisé au ping-pong. Et puis, donc, en fait, l'hôpital est toujours au Vietnam, en fait. Et là, on commence à dire, bon, bah, écoute, voilà, ça y est, maintenant, Forrest, tu vas quitter le Vietnam, c'est bon.
Oui. Juste avant, quand même, t'as une scène importante dans l'hôpital, parce que c'est l'autre personnage qui va te suivre, en fait, pendant tout le film, en fait, c'est le lieutenant Dan, qui, lui, clairement, en fait, sur trois scènes, est dans sa quête du deuil, en fait, dans le deuil de ses jambes et dans le deuil de ses trucs. Et donc, ils sont à l'hôpital, ils le balancent à terre. Et tu comprends bien que là, le lieutenant Dan lui en veut, lui explique qu'il aurait dû le laisser crever et en fait aller au champ d'honneur. Et tu comprends en fait que là, à ce moment-là, c'est la première étape du deuil et qu'il est dans la colère. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qu'on va voir après derrière, parce qu'il va faire ses autres étapes du deuil avec deux autres rencontres avec Forrest. Mmh. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant.
Forrest quitte le Vietnam, il arrive de nouveau aux États-Unis et là, il se fait enrôler malgré lui dans une espèce de manifestation contre la guerre.
Oui, manifestation à Washington contre la guerre au Vietnam. Et donc, en fait, il se fait embarquer dans une espèce de troupe de vétérans qui défendent le
Vietnam.
Ouais. Et donc, par un concours de circonstances assez rocambolesque, hein, parce que c'est un peu l'histoire de Forrest.
Non, mais c'est clair, Forrest, c'est que des concours de circonstances.
Il se retrouve à faire un discours devant un million de personnes en face du... je sais plus c'est quoi d'ailleurs.
C'est au Capitole qu'il est.
C'est Capitole ? Bon, c'est le Capitole. Voilà. Et lors de ce discours, donc, qui malheureusement ne peut pas prononcer parce que pour des problèmes techniques,
quelqu'un va saboter.
Il s'avère qu'il tombe sur Jenny dans une scène tout aussi improbable.
Incroyable.
Allez, vas-y, Badis, qu'est-ce qui se passe?
Ah, bah, c'est incroyable. Il est en train de faire son discours. Déjà, on ne l'entend pas du début à la fin. Et ça, je trouve ça dommage. C'est un peu dessin animé nul. Je suis désolé, hein, mais le moment-là, je trouve que ça n'a un peu aucun sens.
On rêve tous de savoir, en fait, ce qu'il va dire.
Tu sais, en fait, ce qu'il dit. Hein, parce que j'ai vu ça dans les anecdotes. Il disait comme quoi. En fait, ils ont traduit sur les lèvres. Ils disaient que en fait, les gens, quand ils partent au Vietnam, parfois ils meurent, parfois ils vivent et parfois ils rentrent sans jambes.
Ah, pour de vrai ?
Ah oui !
Ah, non, c'est pas une bonne.
Et ben pourquoi l'autre
hyper franchement, c'est hyper dommage de pas l'avoir écouté. C'était hyper bien. Moi, je m'attendais en fait que ce soit un truc débile et du coup, en fait, que ce soit l'animateur.
Bah, attends, c'est ouf, hein.
Bah, moi,
ce qu'il vient de dire, c'est pas ouf.
Si, du coup, c'est hyper important. Surtout, c'est un énorme rapport du coup avec la manifestation anti-guerre, en fait. Moi, je m'attendais à ce qu'il donne une anecdote, genre, vous savez, au Vietnam, les barbecues sont mauvais, tu vois, un truc qui aurait pu être dans l'optique en fait de Forrest Gump, en fait. Ouais. Et je me suis dit, ça se trouve, le mec a entendu ça, le présentateur. Et il s'est dit, ouais, vas-y, il faut quand même que je réagisse. Et le fait est qu'il vienne après derrière et qu'il fasse, ah putain, cette putain de guerre. Je me suis dit, le mec quand même a bien compris qu'il fallait continuer à chauffer la foule, en fait. Et c'est dommage, du coup, de ne pas avoir entendu ce qu'il avait dit.
Ah, ça apporte du charme.
Donc, oui, ça apporte du charme aussi.
Et du coup, là, il y a Jenny qui crie dans le public, Forrest. Et là, il y a Forrest, moment incroyable, quand Forrest pousse tout le monde pour aller voir Jenny. C'est beau, hein.
Et qui va dans l'eau, etc.
Ouais, c'est beau.
Les bras.
Bah, c'est une retrouvaille, c'est toujours beau après.
Alors bon, comme disait Badis, Jenny, c'est un petit peu une cassos. Alors, elle l'embarque où c'est qui les nouveaux copains de Jenny, en fait, Badis
Et bah, des cassos aussi.
Oui.
C'est pas des cassos.
C'est les Black Panthers.
Son mec est un cassos.
Son mec est un cassos. Mais entre temps, il se fait décorer de la médaille d'honneur.
Oui.
Incroyable. Juste avant, en fait, c'est pour ça qu'il se fait choper ça.
Ouais.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe, Badis?
Du coup, il arrive dans un endroit où il y a tous les petits potes de génie. Et du coup, c'est les Black Panthers, les amis de génie.
Ouais.
Et donc voilà,
sauf un blanc qui est un enculé.
Sauf un blanc toxique. Ça m'a fait marrer.
Et c'est le mec de génie.
Ouais. Et c'est les choisir.
Et comme par hasard, il la frappe.
Elle a un sixième sens pour choisir.
Qu'est-ce qui t'a séduit chez moi? J'ai flairé le connard.
Est-ce que tu cognes? Oui. N'en dis pas plus.
Et pour la deuxième fois, génie se fait frapper. Et du coup, Forrest Gump l'aide.
Exactement, il intervient et pas à moitié.
Ouais, bah, il va lui casser la gueule.
Bah, il le couche en fait.
Mec,
le gars.
Et ce que j'ai aimé, c'est que les Black Panthers ne se mêlent pas à ça. Et donc, forcément, Jenny, son mec et Forrest vont se faire virer. Et t'as Forrest qui, à la fin, dit qui s'excuse au niveau des Black Panthers en disant je suis désolé pour votre soirée. Mais tu vois, vraiment le mec cool quoi.
Black Panther.
Et là, Jenny, alors finalement, va devoir prendre un bus. Elle va partir une nouvelle fois. Forrest, il est un peu triste. Il va lui remettre sa médaille.
Médaille of Honor, hein, qui est quand même. C'est la plus grosse distinction militaire que tu peux avoir aux États-Unis.
Voilà, parce qu'il est touchant, tu vois, et ça nous donne ça.
Forrest. Nous avons des vies très différentes, tu sais.
Je voudrais te donner ça.
Forrest, je ne peux pas le garder.
Je l'ai eu en faisant seulement ce que tu m'as dit de faire.
Pourquoi t'es si bon avec moi?
T'es à moi.
Je serai toujours à toi.
Et on retrouve Forrest qui s'entraîne au ping-pong devant une salle médusée, préférant le regarder jouer avec 3 balles plutôt que de suivre les premiers pas sur la Lune. J'ai trouvé ça incroyable.
Ouais, parce que le mec est très très fort en même temps.
Il joue avec 3 balles.
Tu vois un mec qui gère comme ça, je pense que... Même non, quand même.
Attends, là, on parle quand même
de
pas
sur la Lune. Le premier pas sur la Lune,
c'est...
Quand même, ça s'arrête.
C'est,
hein,
c'est
ça,
quelque
faut,
chose quand même. Quand même ouais.
À moins qu'eux, ils savaient déjà à l'époque... que c'était une mise en scène de Stanley Kubrick.
Et que la Terre était plate, c'est clair. Alors, il est tellement bon qu'il est engagé par l'armée pour jouer au ping-pong dans l'équipe nationale. Du coup, il est invité sur les plateaux télé aux côtés de John Lennon. En fait, c'est ça qui est canon. C'est que le personnage vraiment va côtoyer, mais alors tellement...
Les plus grands.
Oui, tous les personnages importants de l'histoire.
En fait, c'est ça. Pour moi, c'est le premier influenceur, en fait, en gros. Excepté qu'il n'était pas à Dubaï.
Et puis, surtout que là, il croise John Lennon, mais il lui écrit aussi les paroles de sa chanson. Imagine.
Ah, je n'ai pas suivi ça.
Si, parce qu'il balance les... comment il dit, il n'y a pas de possession, pas de religion. Et après, il lui dit, c'est possible. Vous pouvez imaginer ça, c'est possible si vous y croyez. C'est les paroles de la chanson.
Ah putain, oh là là, je suis encore.
D'où l'intérêt de regarder.
Mais je chiale.
D'où l'intérêt de les voir en VO.
Tu l'as vu en VO ou en VF, toi?
En VF?
Et t'avais la référence.
Ouais. Ah, j'aime beaucoup la musique.
Tu comprends.
Après, la VO, forcément, au top, mais la VF est incroyable dans ce film. Hein,
déjà parce que le doubleur de Tom Cruise.
Ah non, mais ça faisait partie des très bonnes VF à l'époque qui sortaient. On en fait plus des VF comme ça, en fait. C'est clair.
Bien sûr.
C'est dommage. Hein. On dit ça avec beaucoup de nostalgie dans la gueule. Aussi.
Il va même obtenir la médaille d'honneur du Congrès qui aura tendance à frustrer le lieutenant Dan. Parce que c'est là où on va retrouver le lieutenant Dan. Qui me prend ça?
Le lieutenant Dan file un mauvais coton. Oui. On peut le dire. Le retour à la vie civile sans jambes, c'est compliqué.
Il est devenu le cliché du vétéran du Vietnam marginal.
Le vétéran du Vietnam, exactement, qui n'arrive pas à se remettre de son service et qui, du coup, est un peu la risée de tout le monde, quoi. Des putes. Il a une pauvre vie, pour le coup.
Ouais, ça, c'est dur.
Tu vois, c'est limite c'est pas un clochard, mais on n'en est pas loin quand même.
Bah si,
pour moi,
il a une maison.
Ouais,
donc,
il a un toit, mais c'est vrai que pour moi, au début, je me suis j'avais marqué clochard, j'ai vu qu'il y avait un toit, j'ai marqué marginal. Autant pour moi.
Pour moi, en fait, c'est le soldat classique de la guerre du Vietnam, en fait, qui bade et qui se drogue et qui boit, en fait, quoi, en fait. Ça te fait faire des cauchemars. Hein.
Surtout quand il laisse 2 jambes, oui, c'est sûr que.
C'est clair.
Mais du coup, voilà, ils passent un petit bout de temps ensemble.
Un nouvel an.
Par pitié, il se dit, on va passer le nouvel an ensemble. Donc là, il fricote avec une autre meuf aussi. Et ça se passe pas très bien non plus.
Oui, parce que le lieutenant Dan, il y a 2 choses qui vont l'énerver. Déjà, il faut pas insulter Forrest de débile.
Ça, c'était beau.
Ouais, carrément.
Ouais, ça, c'était sympa.
Parce qu'en fait, Forrest, si vous voulez, c'est un soir de nouvel an. Et donc, on est dans l'appartement du lieutenant Dan. Il y a 2 prostituées. Donc, une qui est sur le lieutenant Dan et l'autre qui se dit, j'aurais embrassé. Forrest. Et à peine elle embrasse Forrest, il la dégage direct parce qu'en fait elle pue la nicotine, elle pue le tabac.
Elle pue la clope.
Et donc là, qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre, il est complètement débile ton copain, ce qui a tendance un petit peu à énerver le lieutenant Dan. qui du coup bouge l'autre pute. Les putes se foutent de lui en disant ouais, de toute façon, tu bandes mou, c'est t'as ça. Un petit asticot,
bah surtout
ta mère la chouin, ton grand-père en levrette, le fion de ta sœur à l'horizon, enfin bref, vraiment le
chie du sang. C'est surtout ça, mais le lieutenant Dan, en fait, là, dans cette étape, il est dans la, il est dans la quatrième étape du deuil, il est dans l'étape du marchandage et il est en train de discuter avec Forrest Gump.
Excuse-nous.
Non, mais il est en train de discuter. Et toi, en fait, Dieu, qu'est-ce qui t'a fait? En fait, il est en discussion, en fait. Et tu le vois, en fait, il pose cette question-là. Forrest lui répond naturellement, en fait, gentiment. Et du coup, c'est ça qui le fait bader juste après. Et c'est ça, après, derrière, qui lui fait aider et prendre sa défense.
Moi, je sais qu'il y a un truc qui est marrant. C'est carrément, t'as le lieutenant Dan qui regarde Forrest. Il lui dit, mais toi, t'as trouvé Jésus. Et t'as Forrest qui lui dit, bah, je savais pas que je devais le chercher.
Exactement, c'est ça, voilà.
Et voilà, pff, mais tellement un guide de vie, ce gars.
Et du coup, en fait, c'est ça. C'est qu'il s'attendait, en fait, à avoir une réflexion et pouvoir lui rentrer dedans. Et il est tombé sur quelqu'un de tellement innocent, en fait, ouais, et tellement gentil. Que c'est, ça le met mal, en fait, d'une certaine manière, en fait.
Forrest est de nouveau invité à la Maison Blanche suite à ses prestations de ping-pong avant de recevoir sa lettre de démobilisation. C'est-à-dire que pour lui, l'armée, c'est fini. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, Forrest Badis?
Eh ben, il rentre chez sa mère. Et quand il rentre chez sa mère, il se rend compte... Déjà, ça, je trouve que je suis un peu déçu de ça dans le film. C'est-à-dire que sa mère, c'est quand même un des personnages principaux. Ouais. Et on la voit jamais. C'est-à-dire qu'on la voit très rarement et du coup... Moi, je trouve que le personnage le plus important dans tout ça, ce qui a inculqué tout de Forrest Gump, ça reste sa mère. Et je trouve qu'on la voit pas assez dans le film.
Bah, je trouve que de façon symbolique, tu vois la mère au début pour l'envol et tu vois la mère à la fin pour.
Ouais, ouais, mais normalement, c'est tout le long. Il passe Nouvel An pas avec sa mère, il passe avec.
Oui, le
mais
parce qu'il évolue aussi de son côté, tu vois.
Ouais,
parce
mais que... sa mère, je trouve qu'il y a pas
c'est
assez.
Que, c'est vrai que, enfin, je doute qu'il puisse vraiment passer le Nouvel An avec le lieutenant Dan et pas avec sa mère. Mon avis, il serait plutôt allé voir sa maman quand même.
Ça le rend... Enfin bref, oui, coup, non, il rentre chez sa mère et là il voit qu'il a reçu plein de cadeaux et que c'est devenu un influenceur. Comme
ah, alors les photos qu'ils ont pris de lui, tu sais.
Ah ouais.
Avec les
le packaging n'était pas au top en 94.
Et ça, du coup, 94, du coup voilà, hein, il doit faire des placements de produits.
Ouais, c'est ça. Et puis toujours avec sa naïveté, sa mère qui dit mais si, c'est quand même 25 000 $. Mais maman, c'est ma raquette. Mais pour 25 000 $, on peut le faire quand même.
Fais du dropshipping, mon fils, tu vois, ça fonctionne bien.
Et je trouve ça aussi, c'est dommage. On voit pas qu'il envoie de l'argent à sa mère. Alors je pense qu'il le fait dans le film, mais on le voit pas. Et ça, je trouve ça un peu dommage aussi.
Et qu'est-ce qui se passe après, alors, du coup, Badis?
Et bah, du coup, une fois qu'il a eu l'argent, il va chez la famille de Booba pour faire le rêve de leur fils, c'est-à-dire devenir crevettier.
Sachant qu'il avait annoncé.
Sans aucune expérience de.
C'est ça.
Mais il a tout ce que vous
voulez. Même de la navigation.
Et il avait annoncé au lieutenant Dan qu'il allait le faire. Et le lieutenant Dan lui avait dit quand, si tu le fais, en se foutant de ta gueule, t'inquiète, je serai ton premier matelot.
Exactement.
Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'en fait, les gens autour de lui, quand il y va, déjà, sa famille lui dit est-ce que vous êtes débile? Encore une fois, on a le droit au classique. N'est stupide que la stupidité.
Donc, est-ce que vous êtes stupide?
C'est ça, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Derrière, c'est pareil, celui à qui il achète le bateau pour 24 000 $, pareil, il lui dit, vous êtes sûr de vouloir faire ça?
Est-ce que vous êtes débile?
Ah,
n'est débile que la débilité.
Ah non, on est débile que la débilité.
Ouais, exactement, c'est ça.
Mais là, le moment incroyable qui fait encore pleurer. Comment il appelle son bateau?
Voilà, comment il appelle son boat, Badis?
Génie.
Elle le mérite pas. Elle le mérite pas. Jenny qui en parallèle à Forrest. Alors, elle s'envoie littéralement toutes les drogues qu'elle peut trouver sur le...
Dans la catégorie des bons choix de Jenny, je voudrais l'héroïne.
L'héroïne et la cocaïne.
L'héroïne c'est et clair. La cocaïne et le base jump sans parachute, mais avorté quand même.
Ah la vache.
Elle
ah ouais,
passe
non.
pas loin
oui.
du...
Parce que qu'est-ce qui se passe, Charlie?
Disons qu'elle aura bien vécu sa vie, elle, en tout cas.
Bah voilà, tu sens qu'elle a définitivement embrassé la carrière de Punching Ball. Comme en témoigne
ça. Elle se fait puncher partout. Ouais.
Ses nombreux cocards. Et je pense que dans un moment de redescente, elle se dit, bah vas-y... Vu que je voulais être un oiseau, je vais me jeter par le balcon.
Vu que je suis en descente, autant que je redescende depuis le balcon.
Moi, j'ai trouvé ça super triste. Hein. J'ai encore pleuré.
Et elle,
j'ai vraiment aucune empathie pour ce personnage.
Ah ouais, ah,
je suis
moi, je la kiffe.
Il a été trahi par trop de femmes dans sa vie pour.
Encore un cœur qui saigne, d'accord.
Pour avoir de l'empathie envers la gente privilégiée. Mais elle est à deux doigts de terminer.
De basculer.
Et puis finalement, elle se ravise. Mais voilà, tu sens qu'elle a eu une vie compliquée. Elle a souffert, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Retour sur Forrest qui reçoit la visite inattendu, justement, comme tu disais, Thomas, du lieutenant Dan. Pourquoi?
Bah, parce qu'il lui avait dit si tu deviens capitaine de crevetier, je serai ton premier matelot. Et c'est une scène, encore une fois, qui est tellement émouvante et qui est aussi hyper drôle, quoi, en fait, quoi. Il arrive, du coup, son premier réflexe, alors qu'il est en plein bateau et qu'il l'a pas amarré, c'est de sauter et récupérer le lieutenant Dan. Pour lui dire, et sa première réflexion, c'est de dire mais qu'est-ce que vous faites là? Et c'était pas, du coup, bah, je t'avais dit que je viendrais. Et juste après, dans le plan d'après, tu vois son bateau se cracher dans le truc. Et il lui dit ah, c'est quoi? Ah, c'est mon bateau. Ouais. Enfin, bref.
Mais la gentillesse du type, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est ça. Il a le cœur sur la main, de toute façon.
Badis, qu'est-ce qui se passe, Badis?
La gentillesse du type. il est pas si gentil que ça.
Forrest, on parle.
Forrest.
Ah ouais, mais faut arrêter. Je sais pas, tu
naïf,
vois pas.
Peut-être, c'est ça
naïf,
que tu veux dire, quoi.
Bête,
oui, mais moi je trouve
il
que.
Il est pas gentil.
Moi je suis désolé, à son
non,
niveau.
Bête, c'est trop péjoratif, je ne peux pas.
À son niveau, moi je pense que c'est vraiment de la pure gentillesse, mais je peux comprendre bien du sûr. Coup que c'est interprété totalement comme de la pure
pour
naïveté.
Pour une personne qui n'a pas de cœur, je peux comprendre.
pour quelqu'un sans âme.
Voilà, pour une personne qui voilà, mange des quiches Lorraine, alors que... voilà. Qui mange du porc, voilà.
Oh là, ça balance.
Donc là, du coup, les deux vont former une équipe pour trouver un maximum de crevettes.
Oui. Et comme ils sont pas expérimentés ni l'un ni l'autre, et ben les débuts, c'est plutôt, enfin, ils trouvent plus
des bottes,
ouais, des bottes plaques. ou des plaques d'immatriculation,
ou des cuvettes de WC,
des cuvettes de chiottes. Ouais. Donc clairement, ils sont nuls.
Ils sont en bad.
Ouais, c'est tout simplement qu'ils sont nuls.
Et Forrest, il a un petit côté très premier degré, parce que je crois que t'as le lieutenant Dan qui dit « Bah t'as qu'à aller prier pour qu'on puisse trouver des crevettes. » Et t'as Forrest qui dit « Ok, bah je vais aller prier.
» Et je vais aller dans le club de gospel.
C'est clair. Et qu'est-ce qui se passe ?
Bah là, il va prier.
Il prie tellement fort que Dieu a décidé de mettre en place une tempête.
Alors, sacré coup du hasard, Badis. Qu'est-ce qui se passe ?
Bah oui, parce que tous les bateaux sont détruits, sauf le sien.
La scène ouais. de tempête est quand même incroyable. Tout le speech où t'as le lieutenant Dan qui est en crise avec le gars. Tu veux me niquer, oh toi, grand pourfendeur ! Le mec va très très loin quand même. Après, c'est très drôle, ça.
Et donc, du coup, oui, en effet, tout est éclaté.
Et du coup, il devient multimillionnaire.
Eh oui, parce que toute la concurrence est éclatée. Et la tornade qui s'appelle Marty. D'ailleurs, Matty, pardon.
Bon.
Ouais, ah, c'est une sorte de Katrina, j'aurais dit. Mais...
L'ouragan Carmen. Rien à voir.
Ça, voilà. Parce que généralement, tu le sauras, les ouragans ont tout le temps des prénoms
oui,
de femmes, en fait.
Ah, bah, femmes, parce qu'il n'y a que les femmes qui détruisent tout sur leur passage.
Oh, le mec est démis au sol.
Salope.
Alors, il va falloir couper ça.
Et donc, à la suite de l'ouragan Carmen qui a tout dévasté, Forrest se retrouve.
Bon,
beaucoup de chat, être le seul à avoir un crevettier digne de ce nom.
Oui, et donc là, effectivement, quand il n'y a plus personne d'autre pour pêcher les crevettes, bah, c'est quand
même
beaucoup plus simple.
Plus facilement. Ouais,
voilà. Moi, j'aime bien, c'est une leçon d'économie. Hein. Vous êtes en galère, bah, priez pour qu'il y ait un ouragan, bah, vous voilà. serez en monopole.
Il suffit de supprimer la concurrence, et puis si t'es le seul sur le marché, bah, ça se passe quand même vachement bien.
Et là, c'est vrai qu'il a rendu, on dit qu'il est gentil, mais il a rendu énormément de gens pauvres.
C'est pas de sa faute, c'est pas parce qu'il a fait une prière qui est en
fait.
À un moment donné, il aurait pu aider les autres.
Mais c'est ce qu'il a fait, hôpital, église.
C'est ce qu'il fait après d'ailleurs. Je suis désolé, après.
Ah, je sais que toi tu te sois tout seul et que t'es pas croyant, mais quand même.
Après, il y a une bonne redistribution, quoi. Et derrière, ça a été très facile. On a eu 14 génies. Puis ouais. voilà, on
donc,
a réussi à développer.
Oui, il est riche.
Oui, il est devenu riche. Il est milliardaire.
Millionnaire. C'est de la crevette, hein, c'est pas non plus.
Par contre, il va y avoir un tournant assez important à ce moment-là dans le film, c'est lequel ?
Sa maman a décidé de mourir.
Oh, attends.
Oh, c'est tellement
et là c'est la fin du film. Allez vous faire enculer.
Elle a regardé son agenda. Elle s'est dit
c'est le moment.
Vous faites quoi mardi prochain? Bah je meurs. Ah bah nickel.
Moi ça m'arrange plus parce que mercredi vous comprenez les mots croisés.
Il va y avoir un tournant dans le film. Et je t'en prie Thomas, si tu veux saccager la table.
Pardon.
Il va y avoir un tournant dans le film. C'est que Forrest va recevoir un appel, Charlie. Et qu'est-ce que ça va lui dire?
Eh ben que sa maman est malade. Je trouve ça plus drôle de l'autre façon quand même. Okay. Bah, que sa maman est malade et que voilà, elle en a plus pour très longtemps.
Et comment il réagit Non, parce qu'il sait juste qu'elle est malade. Comment il réagit sur le coup, Forrest?
Eh ben, il saute dans l'eau parce qu'il est sur un de ses bateaux avec le lieutenant Dan. Et donc il saute dans l'eau pour rentrer à la nage, qui est complètement con.
Alors qu'il est en plein milieu de l'océan. Oui,
à l'instinct, on parle d'une mer, d'accord. Donc là, c'est tu clair. Cherches pas à t'y va, etc. Et alors, je l'ai pas dit.
T'as quand même un instinct de survie normalement de base dans l'être humain.
Bah ouais, mais après lui, c'est que la côte est là-haut, il y va.
Si jamais je prends la barre et que je vais vers la côte, est-ce que je risque pas d'aller plus vite que en sautant dans l'eau en ayant la nage? Voilà,
bref, question.
Et après, il est très premier degré. Hein.
Comme vous le savez, le mercredi, c'est la sortie ciné, mais sur RCN, tous les mercredis dès 20h, c'est le podcast cinéma La Boîte de Chocolat.
Là, honnêtement, ça va être l'autoroute de la chiale parce que Forrest arrive au chevet de sa mère et en fait, le médecin en fait, nous fait comprendre que sa mère va mourir. Et s'enchaîne un dialogue entre Forrest et sa mère.
Pourquoi tu vas mourir, maman ?
Mon heure est venue. Mon heure est venue, simplement. Oh, voyons. Ne sois pas si effrayé, mon chéri. La mort n'est qu'une partie de la vie. Une chose à laquelle nous sommes tous destinés.
Destiné.
Je ne le savais pas, mais mon destin, c'était d'être ta maman. J'ai fait du mieux que j'ai pu.
La chia.
Et tu as fait très bien, maman.
Oh. Il se trouve que je pense qu'on fait chacun son destin. On doit faire de son mieux avec ce que Dieu nous a donné.
Quel est mon destin, maman ?
Hyper égocentrique.
Oui. Ça, il va falloir que tu le découvres toi-même. La vie, c'est une boîte de chocolat, Forrest.
Cette musique.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Maman avait le chic d'expliquer les choses de façon à ce que je les comprenne.
Arrête les métaphores.
Tu me manqueras beaucoup, Forrest.
Elle avait le cancer et mourut un mardi. Je lui ai acheté un chapeau avec des petites fleurs dessus. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
Voilà, c'est la meilleure conclusion, je trouve, en fait. Quand t'as quelque chose de triste à dire, ouais, j'arrête là, c'est bon.
Juste, qui a chialé en voyant ce film autour de cette table ?
La première fois que je l'ai vu, quand j'étais. Quand je devais avoir 8 ou 9 ans.
Là, quand vous l'avez rematé.
Là, quand je l'ai rematé, j'ai pas rechialé là-dessus, j'ai une larme un peu plus tard. Ouais.
J'ai pleuré à mort. Ah, j'en pouvais plus. Hein. Ah, mais des larmes qui coulaient, les yeux rouges, j'ai dû aller moucher 3 fois. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper dommage, parce que là, la maman, c'est le moment, le moment du film le plus triste. Mais non, il pleure. Bah, je vais pas dire. Mais du coup, il
y a des moments. Tard,
voilà, il pleure plus tard. Mais pour moi, c'est là. Après, en fait, c'est là le moment le plus triste.
On le montrait les yeux, il est touché. Hein.
Non, bah attends, il parle encore de lui alors que sa mère, elle est en train de dire qu'elle a le cancer, qu'elle va mourir. C'est quoi mon destin à moi ? Mais ta mère, elle va mourir, tais-toi.
En même temps, il est en train de raconter son histoire à une personne qui est sur le bus, en fait. C'est ça, en fait.
Non, mais quand il demande à sa mère c'est quoi son histoire à lui, il lui demande dans l'instant T où elle va mourir.
Oui, mais c'est parce que lui, il est naïf et qu'il comprend pas, en fait.
Sans toi, j'ai pas de destin, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Il y a ça, et puis surtout parce que sa mère venait juste avant de dire aussi utiliser le mot destin, et donc il est juste en. Il rebondit, en fait, juste sur ce que dit sa mère.
Moi, je trouve qu'il pleure pas.
Moi, ce que j'ai trouvé quand même assez canon dans le film, c'est que dans la plupart des autres films, je pense qu'ils auraient vraiment accentué le côté décès, genre je vais mourir dans la trop souffrance. C'est vraiment pour te faire chialer en tant que spectateur. Alors que là, je trouve que toi, en tant que spectateur, t'es plus triste que les personnages qui sont allés contre, parce que la mère, en fait, elle encaisse la mort. Elle dit ok, ben voilà, ça se passe comme ça. Mais l'autoroute de la chiale, mais direct.
Toi aussi, t'as pleuré.
Non, mais moi, à partir de. J'avais un peu chialé au début, tu vois.
Ouais.
Parce que je pensais être plus fort. J'ai été une vraie victime. Franchement, j'ai chialé à un quart d'heure déjà. Quand personne voulait qu'il s'assoie à côté de lui, etc. Déjà là, ça a été dur.
Franchement, c'est là, parce qu'il a vécu personnellement.
Non, mais c'est, je trouve ça ultra touchant et dur, quoi.
Je
tu
pense
vois
que t'as totalement mis le doigt là-dessus.
Mais
en fait.
À partir du moment où, à partir du moment où la mère meurt, mais il reste une demi-heure. Il reste 40 minutes.
Ce que vous
minutes.
Ne savez pas, c'est qu'il y a des similitudes entre la mère de Thomas et la mère de Forrest.
pas du tout. Moi, je pense que c'est pas ça. Surtout, moi, je pense
notamment dans la partie éducation.
Je pense qu'il déteste le personnage de Jenny parce qu'il s'est en résonance avec. En fait, c'est totalement ça.
Il ferme ta
gueule. C'est ton quart d'heure. Ceci est un podcast.
Si tu pleures devant un film, c'est que par essence, il touche. Donc,
exactement. Ça touche. Ça rentre en résonance avec toi.
Ça touche tout le monde.
Bien sûr.
Tout le monde a une maman.
Pour le coup, il m'a pas fait pleurer non plus.
Oui, mais du coup, on n'a pas les mêmes niveaux de résonance. Moi, tu vois, le moment qui m'a le plus touché dans le film quand je l'ai revu, alors les premières fois, clairement, j'ai pleuré sur le truc, mais là, le truc qui m'a le plus touché sur le film, c'est plus
tard.
C'est
quand le lieutenant n'avait plus de jambes.
Non, c'est plus tard, justement, au retour du lieutenant, au mariage.
Ah, bah. Ah ouais ?
C'est là où vraiment, moi, c'est ça qui m'a le plus touché du film. Parce que le personnage du lieutenant est hyper bien construit. Juste un petit peu avant, du coup, bah, il finit sa dernière phase de deuil, il est dans l'acceptation, il demande justement pardon à Forrest. Toutes ces scènes-là sont hyper bien, en fait.
Bah, moi, je sais qu'à partir du moment du décès de la mère, tu vois, jusqu'à la fin, j'ai pareil.
Ah, non, c'est vraiment, hyper touchant.
C'est, ouais. C'est de la ligne droite. C'est tout est atroce.
Et ce qui est dur, en fait, surtout, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu veux jamais que le film s'arrête, en fait.
Retour sur le banc de l'arrêt de bus. Forrest explique qu'il a laissé le lieutenant Dan gérer l'entreprise des crevettes, ainsi que les revenus de leur entreprise. Alors, j'ai un truc que j'ai trouvé canon. C'est que Forrest s'est détaché, il dit oui, puis on a investi dans une coopérative fruitière, je crois, un truc comme ça. Et là, tu vois qu'à l'écran, Forrest y reçoit une lettre, c'est Apple. Tu dis bon, tranquille. Il y a un truc qui t'a gazé à ce moment-là, non ?
Ouais, je trouve encore c'est trop. Alors, autant ce qui va se passer après par rapport à ça, c'est super beau, autant ça, c'est encore une fois de trop. Il est déjà multimillionnaire, on s'en fout en fait qu'il a des actions chez Apple. C'est trop.
Bah, j'ai vu que dans les anecdotes du film, j'ai vu que Tom Hanks n'était pas le premier choix. Il y a eu John Travolta.
ça aurait été tellement mauvais, John Travolta.
John Travolta dit que c'est le regret de sa carrière. De sa
vie.
Oui,
il peut.
Je pense. T'imagines John Travolta, il n'aurait pas été capable de le jouer. En fait.
Michael J. Fox. Et finalement, tout le monde a décliné. Et Tom Hanks a accepté. Mais par contre, il avait une condition. Il voulait que l'histoire de Forrest traverse des faits historiques, des vraies choses. Tu vois, il voulait pas que ce soit imaginé.
Et il a influencé le scénario en plus.
Une société fictive, etc.
Ah ouais, et
je trouve que brillante idée en vrai. Tu vois, je
donc
sais
il a influencé hyper positivement le scénario.
Ouais,
c'est cool,
c'était sa période un peu où tout ce qui touchait, c'était. voilà, sûr. C'est sa période de Philadelphia. Forrest Gump, doublé Oscar. Enfin, c'est...
Alors, du coup, Forrest, il n'a plus du tout à se soucier au niveau de l'argent. Non. Il en profite d'ailleurs pour donner de l'argent à une église ainsi qu'un hôpital. Mais également, en fait, il donne la part qui était.
50-50.
Voilà, de Booba. La part de Booba, il la donne à la famille de Booba.
Oh, magnifique.
Bah, pff,
tu mais... pleures. La réaction de la mère, elle est juste. Juste
mais une philosophie de vie en fait, tu sais, tu fais ça sans calculer ton intérêt, ouais. En fait, tu fais ça, bah, voilà.
Bah parce que c'était ce que t'avais dit en deal avec ton pote, avant de monter le business, avant qu'il meure, et tu te fais le business sans lui, et derrière, tu respectes la part de ton deal.
Et le gars fait ça en travaillant gratuitement, en tondant la pelouse. Mec, une leçon
de vie. Bah oui, mec, si je suis millionnaire, je peux aller tondre des pelouses gratuitement. Ah, franchement, c'est pas pour ça que.
C'est pas faux, mais c'est vrai que ça reste quand même beau, quoi qu'il arrive.
Oui, bien
en fait.
Sûr. Les gars, voilà.
Après, en même temps, le mec, c'est pas. C'est... Forcément, il a pas les mêmes propensions, en fait, j'ai envie de te dire, que nous, en fait. C'est ça, exactement.
Il est pas dans cette société de surconsommation.
Exactement, voilà. On l'a dit.
Eh ben, prenez-en des leçons, putain.
Nos passaran à balle
capitaliste.
Mais non, bah après, il a beau être riche, l'argent ne fait pas le bonheur.
Exactement.
Il est toujours obsédé par Jenny,
eh ouais.
Qui alors c'est une forme d'invocation.
c'est une sorte de Pokémon en fait.
Déjà, il y pense, elle apparaît, surtout au moment où il devient riche.
En mode fantôme.
C'est vrai que la coïncidence.
J'ai parlé d'une profiteuse. Moi, mais bon.
La coïncidence est assez ouais. Troublante. Bon après, elle repart quand même. Donc au final.
Alors qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il pense à Jenny toujours. Il se demande où elle est et à ce moment-là, elle revient. Donc ouais. C'est vraiment un coïncidence.
Le scénario est vachement bien fait. Comme dans ce
et
film.
Donc elle vient vivre un peu avec lui pendant quelques temps parce qu'elle en a marre de sa vie.
Moi, je pense qu'elle vient se raccommoder en fait d'une
ouais,
de sa vie un peu.
C'est
un
vrai
peu
aussi, ouais, ça.
Et ça c'est dur. Ça franchement, ça c'est triste. Parce que tu vois bien que les deux sont pas du tout sur la même longueur.
Bah non. Du coup lui naïvement qui est amoureux depuis la première fois qu'il l'a rencontré, ouais. La demande en mariage.
Ah oh, la vache, la chiale. Oh ouais. T'as pas chialé là?
C'est beau,
j'ai
ça.
Pleuré. Mais moi j'ai pleuré tout le film.
Ah ouais, non mais non.
Et là
putain.
Elle lui dit, écoute Forrest, je t'aime bien, mais non, il manque un truc quoi.
Mais il baise.
Il manque peut-être le désir pour Jenny en fait. Jenny en fait le problème c'est que clairement tu le comprends du début à la fin, elle va rechercher en fait l'équivalent de son père en fait.
Faut qu'on arrête de l'appeler Jenny, je te jure.
Si parce que Jenny c'est la gênance, non je sais pas mais.
Jiffy, vos idées de Jenny.
Et du coup je pense que Jenny en fait va chercher à longueur de temps en fait l'équivalent de son père.
À la boulette.
Oula, bon, c'est de la thérapie glauque en fait. Hein.
Le podcast,
c'est de la thérapie glauque. Mais en fait, elle va rechercher des personnages, des pères qui sont, enfin des mecs qui sont tous toxiques en fait d'une certaine manière.
Ouais, mais je
moi le truc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Forrest il lui demande de devenir sa femme, il lui dit qu'il ferait un bon mari. Elle lui dit je sais. Il comprend que c'est mort et il lui dit je suis peut-être pas intelligent mais je sais mais mec.
Ah, mais il a des punchlines en
non,
plus.
Mais,
hein.
Non, mais c'est pas ça, mais ça montre que le mec il est aussi. Enfin, tu vois, il est pas débile, il a conscience de ce qu'il est.
Non, il est pas. Je pense qu'à ce moment-là du film, tu sais très bien qu'il est pas débile.
Non, mais voilà, c'est ça, tu vois. Et en vrai, le seul truc qu'a fait Jenny de bien, c'est lui acheter une paire de Nike Cortez. C'est le seul truc qu'elle
non,
ait fait.
Non, elle l'a aidé à traverser toute la partie collège, enfin primaire, collège,
et
lycée.
Et même là, elle lui fait passer
et
des
puis,
bons moments.
Et puis, là, d'une certaine manière, elle vient aussi.
Ouais, mais tu sens qu'elle, c'est pas pareil, quoi.
Est-ce que aussi,
elle lui donne de l'espoir.
Est-ce que aussi Jenny, elle vient pas aussi l'aider d'une certaine manière à faire le deuil de sa mère? C'est un peu ça aussi, d'une certaine manière aussi.
Ouais non c'est atroce hein, parce qu'elle se pète vite derrière.
Ouais ah. Mais elle vient, elle reste un moment, tu comprends, ils te le disent dans le film que c'est un moment de paix pour les deux, ils sont heureux. C'est juste la conclusion qui est horrible moi je trouve après derrière mais et qui fait là je suis d'accord avec toi, je trouve que le personnage du coup est mal écrit, là ça fait très profiteur.
Ah c'est pas qu'il est mal écrit, c'est juste que c'est une profiteuse.
Et elle se barre.
Donc là juste avant de partir donc grosso modo, elle lui dit pas mais elle lui fait comprendre que le coup d'être sa femme, c'est mort. Ils font l'amour.
Ça sort de nulle part en fait. Hein.
Et elle part, mais comme une voleuse, comme une espèce de clochard.
surtout, ce qui est génial, c'est que c'est le taxi qui lui dit. Hein. Le taxi lui dit, vous fuyez quelque chose, je ne fuis rien.
Ouais. Ça, non, c'est, elle sait très bien, c'est bien que écrit, si elle reste, enfin, tu peux pas dire à un mec, non, je t'épouse pas. Par contre,
non,
je viens rester vivre à tes crochets.
Eh ben, non, mais bah.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
Bah,
voilà.
Donc, non.
Je ne viendrai pas vivre à tes crochets.
C'est vrai qu'elle est dans le doute.
Bah, voilà. Non, mais donc, du coup, elle s'en va.
Non, mais attendez. Bah, oui. Faut aussi prendre sa position à elle. À un moment donné, elle peut pas être malheureuse toute sa vie parce qu'il y a. C'est pas gentil, mais parce qu'il y a une personne avec un QI.
Bah, tu profites pas de ses sous alors.
Bah,
elle profite pas de ses sous. Elle s'en va.
Elle habite toute sa vie dans une caravane.
Ah, mais littéralement, elle lui dit ça et. 3 minutes plus tard, la scène d'après, elle s'en va.
Bah putain, tu couches pas avec alors dans ce cas-là.
Bah mais c'est les relations, c'est compliqué, Thomas.
Mais
c'est
parce pas que tout elle a envie.
Admettons qu'elle a envie, tu sais très bien que t'as l'émetteur et le receveur, d'accord ? Et tu sais très bien que l'autre personne, ça va pas être interprété de la même façon. Lui, il va croire plus.
Oui, mais c'est pas de sa faute à elle, en soi.
Non, mais bah, dès lors que t'as conscience de ça, tu le fais pas.
Bon, de toute manière, elle lui rend sa médaille. Ouais. Et là, qu'on n'en avait pas parlé, parce qu'il lui avait donné sa médaille avant, moment magnifique. Et là, elle lui rend sa médaille aussi. Donc c'est là aussi, tu peux voir que c'est pas une profiteuse.
Je sais pas. Je pense que la justification en fait juste de la fuite vient en fait de la scène qu'on a juste avant où il passe devant sa maison et tu sens qu'elle est encore touchée en fait et elle est vénère.
Ouais, après je peux comprendre que ça lui rappelle aussi et ça une lui rappelle partie de son enfance
et du coup elle a envie de fuir en fait. Elle a pas du tout envie. Ça se trouve elle a pas du tout envie d'être dans la même ville où elle s'est fait violée par son père. Alors, en fait c'est logique, c'est aussi dans
c'est vrai
sens.
Que ça on a oublié de le dire
mais toi, quand non, par contre balancer des insultes y a pas de souci. Mais quand il s'agit de réfléchir un peu
non
Thomas,
si en plus je l'ai noté, j'ai dit juste que quand il repasse devant la maison c'est là où le film te dit bah en fait le déséquilibre en fait sa vie éclatée c'est à cause de ça
elle est pas soignée en fait et du coup c'est pour ça à mon avis elle veut reprendre la route pour finir peut-être son périple initiatique
Donc là bref le lendemain Forrest se réveille, il voit la médaille, il comprend que Forrest est en bad. Et par une belle après-midi ensoleillée, il décide de courir.
Oui. Bah, c'est vrai que quand tu n'as plus à te soucier de l'argent, tu peux faire un peu ce que tu veux.
C'est un point en moins.
Voilà. Et donc, il court.
Non,
donc,
et puis surtout,
il se met à courir.
Moi, je pense surtout qu'il a besoin de se vider la tête. Il vient de passer la nuit, d'une certaine manière, avec la femme de sa vie qui vient de se barrer.
Ça, c'est fait.
Merci. Et du coup, je pense qu'il se dit « Vas-y, j'ai besoin de me vider la tête ». Parce que là, je comprends pas ce qui vient de se passer et il se met à courir. Pour moi, la suite est juste logique en fait.
Il part de l'Alabama, donc qui est un état un peu central aux États-Unis, et puis il court jusqu'à l'océan Atlantique. Et puis il arrive à l'océan Atlantique et il se dit vas-y, je vais le faire dans l'autre sens. Et donc il va jusqu'à l'océan Pacifique et il fait que ça en fait.
Il court pendant 2 ans.
Voilà.
Et la deuxième année, t'as les médias qui commencent à dire attends, voir, je crois qu'il y a un mec qui fait que de courir depuis 2 ans, et si on allait le suivre ? Et le gars fédère autour de lui, mais ça c'est pareil, encore plein de trucs poétiques dans le film.
Ah oui, référence au clip de Diams, Enfant du désert, si jamais.
Ça sort de nulle part, ça ! Enfant du désert de Diams, mais je sais même pas de quoi tu parles.
Attends, en fait, c'est pareil, tout le monde la suit quand elle court.
Ah, d'accord, j'ai pas le. Ouais. Ok, ouais,
coup, je pense que d'ailleurs c'est Forrest Gump qui a copié sur Diams.
Oui, bien sûr, tout à fait. De toute façon, Diams a influencé beaucoup de choses.
Exactement. Mais du coup, non, les gens. Alors, ça, c'est un moment, encore une fois, j'ai pleuré tout le film. Hein, vraiment, j'ai beaucoup aimé le film, mais ça m'a saoulé de ouf. Le moment où il court, magnifique, poétique, de malade. En plus, tu sais qu'il n'y a rien derrière et tout. C'est vraiment beau. Tout le monde commence à le suivre. Il est partout, dans les journaux. Les médias arrivent pour essayer de l'interviewer, des choses comme ça. Il parle pas, mais par contre tous les gens qui viennent et essayent de lui demander quelque chose, il rend tout le monde riche.
Ah oui, ah non, c'est
faut arrêter. Le mec, les plaques d'immatriculation, le smiley,
c'est la poule en or après derrière.
Non, mais
encore une fois, c'est un influenceur, c'est un vrai influenceur.
Mais presque expressions par contre.
C'est une poule en or.
Il est bien comme un coq avec des pattes.
Je pense que c'est le moment où tu
Pierre qui roule,
Pierre qui mousse la basse parole.
Parce que oui, il est en train de courir. Il y a un mec qui lui dit oh putain, j'arrive pas à faire des t-shirts, nan, etc. Il lui donne le t-shirt et là t'as Forrest qui s'essuie et ça donne le classique logo smiley qui sourit, le mec fait fortune
sur un t-shirt jaune parce que
il y a un truc des autocollants. Nous on n'a pas été trop concernés par ça, mais aux États-Unis ça cartonne.
Le shit happens, c'est connu, c'est clair.
Je le dis parce que je suis bilingue, ça a cartonné.
Écoute, sur les personnes qui connaissent les bails.
Et donc, qu'est-ce qui se passe après ?
Bah, au bout d'un moment, il est en plein. Je crois qu'il est dans le Colorado, et puis il s'arrête de courir.
Parce que ça y est, il en a marre.
Ça y est, bah, il a fait le vide en fait. Je crois qu'il s'est recentré sur lui.
3 ans et demi pour faire le vide.
Il est un peu lent sur certains points après derrière. c'est tout. Hein. Après, il y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à faire le vide et à faire le deuil. En fait, je pense qu'il a fait. Il a fait le deuil d'une certaine manière, peut-être de la relation qu'il aurait jamais avec Jenny.
Après, c'est vrai que quand tu cours, du coup, tu penses. Tu penses pas à ce que t'es en train de faire et tu penses un peu à tout le reste et tu peux faire le vide aussi.
Alors dans les autres anecdotes, oui pardon. Vas-y.
Pardon, quand il a commencé à courir, il a dit qu'il courait en pensant à Jenny, sa mère, Booba et le lieutenant.
Ouais.
Ça lui faisait beaucoup à digérer, hein, c'est possible. Ouais.
Dans les autres anecdotes, j'ai vu comme quoi des spécialistes s'étaient penchés sur la possibilité de courir comme ça pendant 3 ans, parce que le mec dit quand même que quand il est fatigué, il se stoppe, quand il a faim, il mange rien. Et en fait, ils tous s'accordent à dire qu'au minimum, tu perds tous tes ongles de pied, parce que c'est pas possible. Et puis après, t'as des.
C'est moins drôle ça.
Ouais, ouais.
Ah ouais?
Ouais. Après, tu peux faire des OnlyFans avec des pieds comme ça. voilà.
Et si tu cours pieds.
Merci, niveau business, c'est important.
Alors, Jenny, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle voit Forrest encore à la télé.
Elle a fait sa stalkeuse.
Et du coup, elle veut dire, je vais peut-être lui écrire une lettre, profiteuse de ses morts.
Bah non, mais du coup, elle a été touchée aussi par son... Tu vois, par son...
Sa course.
Ouais, par sa course. Et donc, elle lui envoie une lettre pour lui dire, eh ben, viens me retrouver à tel endroit. Et là, boum, on retombe sur le banc. Et en fait, il est là pour ça.
Film de dingue. Depuis le début du film. Tu dis, putain, mais en fait, t'es là pour ça. Donc, il y a vraiment un sens,
il
etc.
est là pour retrouver Jenny.
Il y a une construction,
dit,
quoi, en fait.
Ouais, exactement.
Et là, la petite mamie qui est à côté, elle commence à se dire, mais attendez, mais c'est quoi l'adresse? Il lui donne l'adresse. Il lui dit, mais vous n'avez pas besoin de prendre le bus là. En fait, c'est juste à 6 pâtés de maison. Vous pouvez y aller. Et là, il commence à... Du coup, il court, ce qui est marrant. Et ce qui est drôle, c'est encore un petit détail touchant que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est qu'il y va avec sa boîte de chocolat. Et c'est vrai que dans le film, on le voit qu'il tape des chocolats. Mm. Et quand il arrive, il toque chez Jenny. Jenny ouvre la porte. Forrest, tout content de la voir, il dit, tiens, voici la boîte de chocolat. Et il lui dit, mais de façon... comme un enfant, il lui dit, bon, j'en ai mangé quelques-uns. Mais mec, pff, tu
incroyable.
Vois. Eh oui, là, c'est comment... Là, il y a déjà le on-off sur les larmes qui arrivent. Putain, mec.
Il y a le on-off avant, avant ce qui arrive après, qui est quand même pour moi le...
Les chutes du Niagara.
Oh, pas les chutes du Niagara, parce que là, franchement, là, pour moi, on n'est pas loin d'être au sommet de la fille de puterie, quand même, d'une certaine manière.
Alors, ce qui se passe, c'est que pendant qu'ils sont en train de discuter, ouais, ça va, toi, ouais, nickel, etc., quelqu'un toque à la porte, c'est une amie de Jenny, et elle vient redéposer un enfant. Et puis elle repart d'ailleurs aussitôt. Hein. C'est vraiment.
Ouais,
voilà.
C'est une amie, quoi.
Et là, t'as Jenny, t'as Forrest qui dit, bah attends, mais t'as un enfant? Elle dit, oui, j'ai un enfant. Ah bah comment il s'appelle? Ah bah il s'appelle Forrest. Et puis il dit, bah comme moi. Et elle lui dit, comme le père.
Incroyable, tu pleures.
Et là, il lui dit, et en fait, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'il lui dit, il a un père qui s'appelle Forrest, tu sais très bien qu'il a compris, tu vois.
Ah non, pour moi, il a pas compris.
Ah non, pour moi, il a pas compris.
Pour moi, il a pas compris.
Ah si, parce que tu vois ses yeux qui commencent à être touchés.
Pour moi, il a compris.
Ah oui, bien sûr.
Pour moi, il a pas compris, mais c'est incroyable, justement.
Ah, je sais pas s'il a compris ou
s'il... Parce que pour moi, il est très...
Tu vois son regard...
C'est un personnage premier degré.
Non, tu vois son regard qui commence à avoir les yeux trempés. Et en fait, c'est...
Il a un doute. Mais il préfère
vérifier. Compris, arrêtez voir. Et quand est-ce que vous avez vu qu'il n'avait pas compris?
Puis c'est quand même le seul gars qui s'appelle Forrest dans tout le long du film. Je veux dire, il n'en a croisé aucun. Bon.
C'est pas après. Là.
Si, tu vois, parce qu'il commence à taper un blanc. Et en fait, mais même la performance d'acteur de Tom Hanks, je la trouve géniale. Oui, parce qu'elle n'est pas dans l'exagération. Et là, l'impact que ça lui fait, et tu te dis, et la première question qu'il lui pose, c'est à savoir s'il est intelligent, si, tu vois, mais mec, la chiale.
Ouais, pire. Il est pire qu'intelligent puisqu'il va finir par avoir des morts à un moment dans sa carrière. Donc ça, c'est quand même assez incroyable.
Sixième sens.
C'est le même acteur que Sixième sens.
Ah, je me disais bien qu'il ressemble à quelqu'un.
Ah,
en plus, tu vois pas vraiment sa tête jusqu'à la fin quand il rentre dans le bus. Et c'est là où tu vois bien sa tête et que tu te dis, mais j'ai déjà vu quelque part. Ouais,
tu verrais pas des morts partout, toi. Bah, dis donc.
Mais la scène est incroyable. Non, elle est incroyable pour les deux points. Elle est incroyable pour le côté beauté parce que tu sens le bonheur de Forrest.
Ouais, parce qu'il
la lecture que tu vois, c'est le côté horrible de dire, putain, ça fait 4 ans en fait, quoi. Qui pourrait avoir l'info en fait.
Et puis Jenny qui vient tout tâcher en disant, bah écoute, Forrest, faut que je te dise un truc, en fait, je suis malade.
Bon, juste après, 2 secondes après, c'est clair.
Profiteuse.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
Pour moi, c'est le DAS. Hein.
Oh ouais, le sida.
Ah oui, on est.
Mais du coup, ça sous-entendrait que le petit Forrest l'est également aussi.
Et que Forrest Gump aussi l'est.
Non, pas forcément. Elle a plus le
choper. Ah, il peut l'avoir.
Là où je suis d'accord avec Badi, c'est que tu dis, moi j'ai pensé au sida parce que je me suis, avec tout ce qu'elle s'est envoyé, les seringues, etc., il y a quand même de grandes chances. Et donc, en effet, après, tu dis, bah tiens, est-ce que Forrest.
Après, il me semble que ce passage-là se passe en 81. Ouais. À ce moment-là, parce que tu sais, t'as une chronologie tout au long du film, et le moment où il retrouve Jenny, c'est en 80, et c'est le moment où le sida commençait à apparaître. Donc, c'est pas impossible non plus.
J'ai pensé aussi au sida, mais je me suis dit, vas-y, c'est une hépatite.
Mais du coup, ça voudrait dire que entre le moment où elle a eu cet enfant avec Forrest, et ce moment-là, elle a continué un peu à faire
bourlinguer.
Voilà.
Et du coup, bon, on sait que l'affaire est pliée, et bah, encore une fois, hein, Forrest lui dit, bah écoute, t'as qu'à venir. Avec le petit Forrest chez moi, en fait. Faisons comme ça. Et là, il va y avoir un truc. Mais mec, j'ai éclaté.
Moi, c'est beau, mais je trouve ça moche.
Ça, c'est moche. C'est au moment où elle commence à lui dire « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et tu sais que c'est le truc qui le rendrait le plus fou, en fait, le plus dingue, tu vois.
Mais c'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme.
Ouais, c'est ça qui est dommage.
Et c'est un peu dommage. Après, c'est beau, mais quand même, d'une certaine manière, c'est l'opportunisme.
C'est toi ?
C'est lui.
Moi, je trouve pas, hein.
C'est un peu de l'opportunisme.
C'est pas comme si elle avait profité tout le long.
Non, c'est ce que je te dis.
Je t'ai manqué jusqu'au bout, juste un petit peu.
Je te dis pas, c'est à 100%. Mais t'es obligé quand même en l'analysant. De l'extérieur,
c'est elle qui s'est occupée de gosse depuis le début.
De l'extérieur, quand même, c'est un peu de l'opportunisme.
Ah ouais, non, mais
après, elle veut qu'il voit. Il aurait mérité de le
connaître un tout petit peu plus tôt, quoi. Après 4 ans, quoi, en fait, quoi.
Ça, j'en conviens.
On est d'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que le mariage se fait. Alors, en effet, le mariage très touchant parce que tout le monde est là pour Forrest. Et là, on revoit, putain, on revoit le lieutenant Dan.
Moi, ouais, bon, là, j'ai chialé. Moi.
Ouais.
Là, ah, franchement, pour moi, c'était le plus fort.
C'est
moi,
beau. Ah, ouais, c'est beau. Parce que le mec voulait se suicider. Et là, tu le vois debout avec des nouvelles jambes.
Ouais, il s'est rasé, quand, il est propre.
Quand t'es millionnaire, ça aide quand même aussi un peu.
Et Forrest, il le regarde en disant des jambes magiques, mais
tout est beau en fait.
Ah la franchement, naïveté. Mais c'est quoi, je pense
dire
que
comme
je pourrais...
ses jambes au début du film en métal et tout.
Je pourrais cogner quelqu'un qui crache sur ce film. Je...
Ah. Non, là, franchement, moi, là, tout est beau. En plus, tout ce qu'a subi le lieutenant Dan pour arriver à ce moment où il s'est reconstruit, où il te dit qu'en plus,
aussi, tu sens qu'il
il est fiancé, etc. Ouais. Non, franchement, là, c'est hyper.
Je pense qu'il y a des gens qui aiment pas ce film.
C'est possible, mais j'aimerais
enfin,
beaucoup.
Qui l'ont pas trouvé fou non plus.
J'aimerais beaucoup
que les gens-là, ils votent Zemmour, je crois. C'est sûr.
En fait, ils n'ont pas compris tout côté ségrégation. En quoi c'est un problème?
Attendez, on parle bien de moi. Voilà. Pas le problème.
Moi, Booba, il meurt. Bah, j'ai dit pourquoi pas.
Un Booba crevettier. Pourquoi pas. Un noir.
Et donc le mariage se passe et un matin Forrest se pointe avec un petit déjeuner
dans le même lit où la mère est morte avant. Ça, j'ai trouvé si c'est un peu glauque.
Bon. Ah, j'avais pas vu ça.
C'est exactement ça.
On sait pas si c'est la même chambre. Ça se trouve, t'as pas vu.
C'est exactement le même lit, même parure de lit. Mais...
Et là, quand il arrive avec le petit déjeuner, bon, tu sens que Jenny, c'est pas la grande forme. Et ça, Forrest, il l'a un petit peu remarqué. Et puis Jenny, elle va lui dire, Forrest, est-ce que t'avais peur toi au Vietnam? Et là, t'as Forrest qui va lui expliquer un petit peu les mésaventures qu'il a eues, etc. Donc c'est assez chouette.
Quatre plans stylés. C'est incroyable.
Hein ?
Quatre plans incroyables.
Ouais, vraiment magnifique. Et puis c'est assez dur parce que du coup, il termine son anecdote et il commence à dire qu'elle est morte tel jour. Ouais, et
là, un samedi matin.
Un samedi matin, c'est ça. Et là, tu retrouves Forrest seul face à la pierre tombale. Mais mec, c'est atroce. Et ça termine comme ça.
Jenny. Je ne sais pas si c'est maman qui avait raison ou si c'est le lieutenant Dan. Je ne sais pas si nous avons chacun un destin ou si nous nous laissons porter par le hasard comme sur une brise. Mais je crois que c'est peut-être un peu des deux. Peut-être qu'un peu des deux arrive en même temps. Tu me manques, Jenny.
Mec, tu l'encaisses la réplique là? Pas du tout.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai jamais très loin.
Le tour de la chiale, hein.
C'est beau, hein.
Bien sûr. Et donc là, après, qu'est-ce qui se passe?
Pour conclure le film, il emmène son fils pour la première fois devant la maison, enfin au bout de l'allée,
ouais.
Pour qu'il prenne le bus. Exact. Le fameux bus dans lequel il est monté aussi, étant jeune.
Avec la même chauffeuse de car.
Avec la même chauffeuse de car.
Non, mais tu vois, c'est autant parfois dans les films, tu dis oh là là, tu recommences, t'arrives à la fin comme tu recommences au début, c'est lourd. Alors que là, mais tout
non,
est
ouais,
bien.
Ça passe bien.
Avec la même chauffeuse de car.
Et puis surtout, le plan de la plume.
Le plan de la plume, sachant que la plume, au tout début,
elle descendait du ciel.
Il la prend et il la met dans un livre en fait de gosse en fait, ouais. Qu'il a avec lui à l'arrêt de bus. Mm-hmm. Et c'est le livre que prend le gosse pour prendre le bus en fait.
D'accord. Et c'est ainsi que se termine ce merveilleux film qui est Forrest Gump. Alors, on va faire un petit tour de table, à savoir combien de chocolat on lui donne. Bah 10. Sur 5.
Sur 5, c'est un très très beau film. Vraiment, il est magnifique. J'ai pleuré du début à la fin. J'ai jamais autant pleuré devant un film. Sachant que moi, je l'avais jamais vu. Il y a des trucs, je suis désolé, il y a des trucs qui sont pas assez terre à terre pour moi. Il y a des trucs qui n'ont un peu aucun sens et qui m'ont pas plu. Je trouve que c'est un peu de trop dans le film. C'est pour ça que je lui donne 4 chocolats sur 5.
D'accord, ok, ça marche. Thomas.
Moi, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un film doudou qui fait toujours du bien, en fait. Franchement, c'est un film plaid. Mais pour moi, il n'y a pas de film parfait. Et du coup, je lui mets 4,5 sur 5.
Ok, Charlie.
C'est ce genre de type qui ne donne pas de 20, de 20 sur 20.
Parce que tu peux toujours mieux faire.
Je peux toujours mieux faire.
Mais c'est pour moi, c'est parce que ça n'existe pas, en fait. C'est ça, en fait. Et pas, mais voilà, c'est chacun un truc. Mais c'est pour moi ce qui est la note parfaite, d'une certaine manière.
C'est un excellent film. J'avoue que c'est très difficile d'y trouver des défauts. La performance d'acteur est quand même assez incroyable parce que je pense que ça tient à peu de choses pour que ce soit la performance la plus ridicule qui existe, et pourtant ça fonctionne.
Du coup, imaginez John Travolta là-dedans, ça me...
Mais
ouais,
c'est...
pareil, quand tu m'as dit que ça pouvait être John Travolta, ouais, gênant.
Ça reste toujours un film qui est intéressant à regarder, mais qui en soi ne fait pas naître de réflexion non plus particulière sur le... Tu vois, c'est une belle, très belle histoire, donc je lui donnerais 4,5 aussi, mais pas de 5.
Très bien, Thomas.
Bah moi, je le dis direct, le film, franchement, sur 5, je pourrais lui mettre 7. Ce film, vraiment, tu parlais de le film parfait n'existe pas, mais pour moi, ce film, il est parfait de bout en bout. Les acteurs sont ouf. On n'est pas dans le surjeu, etc. La réalisation, bien que simple, elle est quand même dingue. La musique, elle est ouf. Les musiques mises dans le film sont dingues. Non, franchement, c'est... Mais pour moi, c'est une vraie réussite.
Moi, je kifferais le re-regarder de nouveau en ne le connaissant pas. En fait.
Ah ouais, mais Badis, j'aurais adoré être...
c'est pas faux.
Non, c'est pas mal.
Hein. Pour toutes les émotions, pour tout le moment, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui va arriver derrière
le film...
En fait, ça, t'as l'impression que c'est toujours de plus en plus. Et non, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là qui est quand même quelque incroyable.
Il y a quand même un problème, c'est que tu... Pour la première fois que je l'ai vu, donc tu sais qu'il va pas mourir, tu sais
oui,
que
d'une certaine manière,
génie va pas mourir.
Ah bah si.
Oui, mais par exemple quand elle veut suicider, tu te doutes que non, il y a des trucs un peu trop.
Le coup du gamin, tu le vois pas venir.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Quel truc du gamin?
Bah, ah, le gamin de génie.
Ah non, 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 pas du tout.
Ouais, ouais. Non mais c'est vrai, il y a des côtés, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que tu t'y attends, même si le côté quand même quand elle est sur sa chambre d'hôtel et qu'elle a deux doigts de sauter, je me suis dit est-ce que le film veut aller là?
Ça aurait, ça aurait été pas mal.
Ça aurait été dingue. Ah, hein, ça,
en tout cas, voilà, pour moi, ce sera un 5 chocolats. J'espère que vous avez aimé ce podcast. En tout cas, il y en a plein d'autres qui arrivent. Alors, il y aura tout, il y aura du film français, il y aura du film américain. On vous remercie beaucoup et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut.
C'est vraiment trop débile votre truc.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Et surtout, n'oubliez pas.
Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
Je veux rentrer chez moi.